Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous sommes le lundi 12 juillet 2021. C'est un jour historique, mais pas pour les raisons qu'on croit. Et il est 21h et nous lançons donc ce Radio Pléiade numéro 10 sur la thématique des méditations. Alors, petite intro rapide, hein, et donc la méditation, tout le monde en parle, tout le monde en fait, hein. Peut-être que vous avez même l'application Petit Bambou sur votre smartphone. Mais en fait, en réalité, la méditation, c'est quoi? Ce serait intéressant justement de faire un point là-dessus. On va balayer aussi quelques idées reçues sur la méditation. On voudrait savoir, vous, comment vous méditez, quels sont les objets éventuellement qui vous accompagnent dans vos méditations. Est-ce que vous méditez aussi en rêve? On va parler aussi de méditation de masse parce que je sais que c'est un sujet qui est très polémique. Sandrine nous parlera de la méditation colonne bouddhique qui a été faite tout à l'heure pendant l'allocution de celui que je ne reconnais pas comme mon président. Et puis, on va parler de tout un tas d'autres choses. Et si vous voulez dériver un peu, ce sera possible. Alors, moi, mon humeur du jour, en fait, c'est vrai qu'elle est mitigée. C'est-à-dire, bon, avant l'allocution de l'autre, j'aurais voulu parler de la trahison du professeur Raoult, qui dit ne jamais faire de politique et qui a fait un acte éminemment politique en se prononçant pour la vaccination obligatoire des soignants juste avant l'annonce de Macron. Donc non, non, ne vous y trompez pas, Raoult ne fait pas que de la science, il fait aussi de la politique. Mais en réalité, non, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'était par rapport alors il y a les annonces effectivement du président qui peuvent être assez alarmantes, mais moi j'ai vu passer un courrier qui est adressé en fait aux parents d'élèves. Donc les directions d'académie demandent de diffuser un message à tous les parents d'élèves. C'est maintenant que ça se passe, hein, c'est aujourd'hui. Qui dit la chose suivante, après une amélioration des indicateurs sanitaires, blablabla, le taux d'incidence de la COVID-19 repart à la hausse. Dans le même temps, la circulation du variant Delta s'accroît. Face à cette évolution et afin de préparer au mieux la rentrée scolaire, l'Agence régionale de la santé vous invite à faire vacciner vos enfants le plus rapidement possible. En effet, d'après les autorités sanitaires, le variant Delta touche essentiellement les personnes jeunes et non vaccinées et la vaccination se montre efficace, avec une réduction du risque de forme grave de 70% après une injection et 90% après deux injections. Cela démontre que la meilleure arme contre la COVID-19 reste la vaccination pour se protéger les uns les autres. Par ailleurs, le recours à la vaccination est simplifié, etc., etc. Donc, tout est faux dans ce message. Et ces messages sont précipités. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que là, on a une annonce qui a été faite par Emmanuel Macron pour l'obligation vaccinale pour les soignants. Bon, on s'y attendait, hein, après la trahison de Raoult. Mais en fait, si vous voulez, il y a un temps légal qui est plus lent que le temps possible de l'action. Et là, on les sent vraiment dans la précipitation à vouloir forcer les parents et les enfants à se faire vacciner, donc dès l'âge de 12 ans, et ceci avant la rentrée scolaire, sachant que le temps légal ne leur permettrait pas d'avoir un calendrier aussi accéléré. Donc, si vous voulez, si on veut paniquer, on peut paniquer face à ces annonces. Mais moi, j'ai envie de voir encore une fois le verre aux trois quarts plein. Et je me dis, ils sont vraiment dans la merde parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à la montée de la lumière. Ils n'arrivent pas. Et de ce fait, ils essayent de précipiter le calendrier ils ne peuvent plus jouer. Ils ne sont plus en mesure de jouer avec le temps légal. Donc voilà, j'ai une espèce de mélange. Je me dis, je pourrais peut-être plus aller au restaurant cet été, je pourrais peut-être plus rien faire cet été parce que j'ai prévu de partir en vacances au mois d'août. Mais je m'en fous parce que je les vois en train de dégringoler et de s'enfoncer chaque minute un peu plus dans le mensonge et dans le crime, tout simplement, parce que c'est un crime ce qu'ils nous poussent à faire avec ces vaccinations pour les enfants et pour les adultes. Donc voilà, c'était mon humeur du jour. Allez, à vous.
Et Laurent,
Allez, prenez la parole. Oui, Sandrine.
je me lance alors. Donc je suis Sandrine, je suis méditante pour les méditations mondiales, et je suis Koubra depuis maintenant 7 bonnes années. Et voilà, mon humeur du jour, on va dire que pour l'instant, je suis dans le calme émotionnel, donc ça va, tout va bien pour l'instant.
Parfait, il en faut. Merci Sabrine.
Bonsoir, c'est Gwen du Jardin des Pléiades, la chambre Antaquion en Bretagne. Mon humeur du jour, eh bien écoutez, je ne sais pas trop, un peu à regarder ce qui va se passer, comment les réactions qu'il va y avoir, en essayant de rester le plus centré possible et de ne pas rentrer dans ces égrégores de peur dans lesquels ils essaient de nous mettre, et de garder quand même le sourire, et puis on verra bien. De toute façon, nous on est là et on suit tout ça, quoi.
Eh bien, bonjour, c'est Eric, le gardien de la chambre Antaquion du Poitou. J'ai rien à rajouter. Tout a été très bien dit. Oui. N'allons pas dans la peur ni dans la guerre avec les autres, vaccinés, pas vaccinés, parce que ça, c'est une arme qu'ils savent employer, la division. Après tout, si les gens veulent se faire vacciner, c'est leur problème. Tant qu'on ne nous force pas, nous, à l'être. Voilà. Et puis, en effet, c'est totalement illégal et attaquable sur tous les fronts. Donc, aucune raison d'avoir peur, restons en paix, amusons-nous et sourions. Voilà, c'était mon humeur du jour. Quelqu'un d'autre, l'humeur du jour ?
Non, on est tous passés parce que Cindy n'est pas là, mais je vois que Hervé n'est plus sur Telegram. Il a dû
avoir
un souci.
Une coupure spatio-temporelle.
Ouais, je pense. Du coup, peut-être qu'on peut enchaîner avec toi, Sandrine, que tu nous parles un peu par rapport à la colonne bouddhique.
Alors, donc, oui, je vais parler en l'occurrence de la colonne bouddhique que j'avais choisie. Choisi celle-ci parce qu'elle fait, elle est très très efficace en effet laser avec des effets très ciblés. Voilà, c'est pour ça que celle-ci me paraissait la plus adaptée pour la méditation que j'avais programmée, qui m'est venue comme ça en fait, comme idée, comme un éclair en fait. Et je me suis dit, est-ce que c'est faisable ou pas? Et finalement, c'était faisable. J'ai Hervé qui m'a dit, mais pourquoi tu ne la proposerais pas? J'ai dit, oui, après tout, pourquoi pas, en fait. Et puis voilà, donc le but, c'était de, en fin de compte, parasiter, couper l'impact hypnotique du discours de M. Emmanuel au maximum pour que au moins ça impacte un petit peu moins les gens par le biais de l'hypnotique, puisque c'est quelqu'un quand même qui est formé pour ça. Qui est en résonance avec les effets d'ondes de télé, etc. Donc, je me suis dit, ça pourrait être un outil, puisqu'on a des outils, ben, autant les utiliser en respectant les lois universelles, en ne faisant de mal à personne, mais pourquoi pas ne pas ralentir un petit peu leur précipitation, on va dire, et si on peut faire d'autres méditations dans ce sens, et bien, pourquoi pas, après tout. Voilà, mais la colonne bouddhique, c'est vrai que c'est une méditation qui est vraiment très efficace de par son effet laser. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, celle-ci.
Ouais, super, c'est revenu. Hein, ma box a rebooté parce qu'ils n'ont pas aimé que je parle de Macron et des vaccins, sans doute. Merci, Sandrine. J'ai raté un petit morceau. Donc, ça y est, on est déjà rentré dans le vif du sujet. Alors, du coup, justement, cette colonne bouddhique, ça a donné quoi? Tu as vu des choses particulières? Tu as nettoyé le palais de l'Élysée?
Alors, oui, j'avais demandé à ce qu'il y ait une protection supplémentaire pour tous les participants, en fait. Parce qu'étant donné que ce sont des ondes radio qu'il fallait un petit peu nettoyer et qui sont comprises dans les nocives. Mais bon, vu que c'était quand même une médiation spécifique et on n'avait jamais fait, enfin, moi, je n'avais jamais fait celle-ci auparavant pour ce type de méditation-là. J'ai demandé pour que tous les participants soient un peu plus protégés que d'habitude, on va dire. Et effectivement, j'ai eu quelques petites visions. J'ai eu, alors, Je ne sais pas si ça a un rapport ou pas, mais il y avait, j'avais bien sûr fait, pas d'après le protocole, le rayon blanc feu de âne. Et en même temps, j'ai vu un autre rayon qui englobait justement le feu blanc de âne, un feu bleu électrique avec beaucoup d'éclairs et qui englobait en fait toute la bulle de la colonne bouddhique. Certainement qu'il fallait ça, certainement aussi, je ne sais pas. Enfin, pour moi, hein, parce que moi, je le détermine comme ça. Et pour un effet, à effet renversé, en fait, comment dire. Je pense que l'effet hypnotique, hein, alors, va déjà être atténué pour pas mal de personnes, mais en même temps, ça va renverser la vapeur, en fait. Ça va réveiller les gens. Ils ne vont plus trop y croire, en fait. Et il va y avoir certainement une montée de colère par rapport à ça, autant chez les non vaccinés et vaccinés, parce que bien sûr, la guerre va être un petit peu, on va dire, ardue. Mais en plus, l'hypnose va retomber, quoi, en fait. Et c'est là où ça va être un petit peu une belle déflagration, je pense. Voilà. Alors, mais par contre, s'il y avait...
Non, vas-y. Enfin, je voulais te demander, parce que j'ai raté un petit bout à cause de mon problème technique, tu avais expliqué en quoi ça consistait la colonne bouddhique, parce que finalement, là, on commence par un concept qui est un des plus ardus en méditation, en réalité.
C'est un concept assez ardu, parce qu'il y a pas mal de visualisation ou d'imagination, de toute manière. Les deux fonctionnent, hein. Même l'intention avec la parole, avec la voix fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. La colonne bouddhique est vraiment très, très bien faite parce qu'elle agit sur plusieurs niveaux et s'adapte aux vibrations des méditants, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Et le concept, donc, c'était d'atténuer l'hypnose. J'avais pas mal d'êtres qui étaient autour de la colonne bouddhique. Donc, je crois qu'on a bien été bien soutenus. Pour le coup, il y en avait vraiment pas mal. Et en plus, au ralliement de toutes les colonnes bouddhiques, sur Terre, au-dessus et partout où on était guidés, j'ai vu des colonnes bouddhiques qui étaient en fait dans la Terre, qui ont scintillé en fait, et sur la Lune. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils n'allaient pas me demander pourquoi, je ne sais pas. Mais il y en avait aussi sur la Lune et surtout dans la Terre. Alors, est-ce qu'il y a eu des colonnes bouddhiques de fait pour les souterrains qu'il y avait à nettoyer? Je ne sais pas, peut-être. Je peux peut-être le dénoter comme ça. Et vraiment, quand toutes les colonnes bouddhiques se sont ralliées en fait, à l'étoile principale, qui est dans la grille planétaire, ça a été phénoménal, quoi. J'ai vu vraiment toute l'énergie... du feu blanc de purification et puis de transmutation, quoi, mais activé à je ne sais pas combien de watts, si on peut appeler ça en watts ou en énergie, ça fusait énormément. Les énergies fusaient beaucoup, beaucoup. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'autres colonnes bouddhiques qui sont faites en même temps que nous-mêmes, avec des intentions différentes, et ce qui est pas mal, je pense, pour aider un petit peu à sortir de la cacophonie.
Ok, alors voilà, bon, on a un petit peu brûlé les étapes quelque part, puisqu'on on serait censé commencer par le simple et aller vers le plus complexe. Et là, on a commencé finalement par le complexe. Donc, je ne sais pas, bon, ceux qui ne connaissent pas le concept de colonne bouddhique, il faudrait qu'on vous mette un lien. Enfin, les liens sont déjà en l'occurrence dans le groupe Révolution Vibratoire et dans le groupe Méditons Ensemble pour la Libération Planétaire. Vous pourrez la pratiquer, donc elle fait une quinzaine de minutes. Alors, pourquoi je dis qu'on commence par le complexe? En fait, ce que j'aurais justement souhaité dire, si je n'avais pas été perturbé par ce problème technique, c'est que en réalité, donc, il y a une infinité de méditations possibles. En fait, la méditation, souvent, on en a une vision un petit peu cliché. Voilà, on s'assit en tailleur, on ferme les paupières, on fait un mudra avec les mains, et puis on fait un om éventuellement, et puis on reste immobile et on arrête ses pensées. Merci Gaïa Sol pour le lien. Et puis voilà, c'est la méditation. En fait, en réalité, une méditation, c'est une action. Une méditation, c'est avant tout une action sur les plans subtils. Et donc, autant vous pouvez mener tout un tas d'actions sur le plan physique, bah, je ne sais pas moi, aller rendre visite à votre voisin, planter une graine, observer le soleil, j'en sais rien. Vous pouvez faire tout un tas de choses dans le plan physique. Mais alors, justement, dans les plans subtils, vous pouvez en faire encore plus parce que les lois physiques, justement, sont un peu différentes. Et donc, les méditations, justement, sont des façons d'agir sur les plans subtils. Donc, ce sont des actions sur les plans subtils. En fonction de quoi ? En fonction des protocoles, en fonction des visualisations. Et si on prend l'exemple, justement, de notre colonne bouddhique, donc que Gaïa Sol nous a mis en lien, en réalité, en quoi ça consiste ? Ça consiste à visualiser donc un vortex de lumière blanche au-dessus d'un point donné et que ce vortex va aspirer les énergies négatives pour les transmuter au niveau de l'étoile à cinq pointes et va se relier justement à d'autres colonnes bouddhiques dans la planète pour nettoyer le réseau énergétique planétaire. Donc en réalité, quand je dis une action, là c'est même une construction. C'est-à-dire que quand vous faites une méditation colonne bouddhique, vous êtes dans une démarche constructive. Vous ne faites pas juste quelque chose qui va s'effacer une fois que vous aurez fini votre méditation. Vous construisez quelque chose sur le plan subtil qui va perdurer et qui va se connecter aux autres colonnes bouddhiques. Et c'est pour ça qu'on est véritablement dans une action, et là même dans une action de construction. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est déjà la première chose que moi, je voulais dire par rapport aux méditations. C'est que en fait, on peut tout faire avec la méditation. Tout est possible, tout est imaginable, et même bien au-delà de ce qui est imaginable, sachant que c'est une action en fonction de votre intention, sur quoi elle est ciblée, sur quelle visualisation elle est ciblée. Donc, je vous laisse intervenir si vous le souhaitez. Et puis, par rapport à cette méditation colonne bouddhique, c'est vrai qu'on en a fait beaucoup. Et si vous vous sentez guidé à participer au nettoyage des plans subtils, on vous invite franchement à découvrir cette méditation colonne bouddhique. Vous pouvez même la faire au-dessus de chez vous. Vous pouvez la faire au-dessus de n'importe quel lieu, justement, pour en nettoyer les énergies. Et Dieu sait si on en a encore besoin. Donc, c'est vraiment une action de lumière. Vous contribuez activement à la lumière lorsque vous faites ces méditations colonne bouddhique qui, encore une fois, ont une action très ciblée et orientée vers la victoire de la lumière. Alors oui, Marie-Louise. Vas-y, Marie-Louise, je te donne la parole. Bonsoir. Tu dois activer ton micro. Bonsoir.
Oui. On m'entend ?
On t'entend bien.
Ah, ça va. Bonsoir tout le monde. Et en fait, je voudrais bien revenir sur la méditation de Sandrine. Bon, j'ai vu qu'elle avait mis un lien sur YouTube, etc., mais je me suis plantée. Donc, j'ai fait la colonne bouddhique en fonction de ce que j'avais déjà fait par rapport à Donald là, en question. Et ce qui est arrivé, parce que c'est une vision que j'ai vue, j'ai senti, c'est assez particulier, parce que monsieur, en question, j'ai vu son visage qui se détachait de son corps, avec un effet très, très moche derrière, hein, très, très réaliste. Et aussi, après ça, j'ai vu toutes les pensées des gens aspirées dans cette colonne bouddhique. Donc, toutes ces pensées hypnotisantes en question, liées au discours hypnotique. Et puis après, et c'est là que ça m'interpelle ce que Sandrine a dit, parce qu'après, j'ai vu comme des petites lumières bleues se déposer sur chaque personne. Donc, est-ce que ça correspond à ce feu électrique ? Bon, moi, c'était petit, évidemment, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça. J'avais envie de parler de ça, parce que je trouvais que ça rejoignait ce que Sandrine avait vu. Donc voilà.
Oui, tout à fait. Merci Marie-Louise. J'invite d'autres personnes là sur. Donc nous sommes 46 personnes sur Radio Pléiade pour le moment. Si d'autres personnes ont participé à la méditation colonne bouddhique, donc pendant le discours du président illégitime, n'hésitez pas à venir à la partager avec nous. Moi, personnellement, j'ai senti un brouilleur au niveau de mes pensées. Il y a quelque chose qui tentait de brouiller justement mon action colonne bouddhique. Je ne sais pas exactement d'où ça venait. Et à un moment, j'ai une vision de choses très vilaines qui sortaient de sous la surface du sol du palais de l'Élysée. Je ne sais pas, il y a certainement des souterrains sous le palais de l'Élysée et peut-être même des choses très vilaines. Voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à ma participation à cette méditation de tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait éventuellement partager, là, comme justement, comme Marie-Louise l'a fait, là, par rapport à... OK, alors il y a Neige. Eh ben, Neige, tu as la parole, tu dois activer ton micro.
C'est la première fois que je parle, là, en direct, alors que je vous écoute régulièrement. Donc, je suis un petit peu agitée. Alors, pour moi, la méditation, c'est la première fois que je la fais. Donc, juste avant, j'ai fait la protection, voilà. Et ça a été très puissant parce que les vortex, en fait, qui étaient connectés aux pointes des étoiles, en fait, les vortex étaient hyper puissants. Et en fait, à un moment donné, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que j'ai eu la visualisation du nettoyage de tous les égrégores de pensée de toute l'humanité depuis son incarnation sur Terre. Donc ça, c'était vraiment très, très puissant. Et puis, du coup, ben voilà, après, les colonnes qui étaient ancrées sur la Terre, comme disait Sandrine. Par contre, moi, je n'ai pas vu la Lune, pas du tout. C'était vraiment très, très connecté sur la Terre. Et puis, j'ai vu aussi beaucoup de nature très, très puissante. Beaucoup. Ah oui, la vision que j'ai eue aussi, c'était des danses de dauphins qui faisaient des spirales, mais qui étaient connectées avec d'autres espèces de dauphins sur toute la Terre. Et ensuite, après, j'ai eu la vision, en fait, bon, mis à part Monsieur M, que je n'ai pas trop envie de m'attarder, mais en tout cas, son énergie était, son intention était affaiblie. Ce qui apparaissait, en tout cas, c'était une ligne de temps hyper lumineuse avec tous les peuples voilà, qui sont sur la Terre, avec vraiment chacun à sa place, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de libération, avec vraiment un rayonnement hyper puissant. Voilà.
Ah ben c'est génial. Merci beaucoup pour ton témoignage et merci beaucoup d'oser prendre la parole ce soir.
Oui, j'aime bien justement.
Ouais, voilà, j'aime bien quand il y a des nouvelles personnes justement qui osent prendre la parole, c'est super. Et j'encourage ceux qui ne l'ont jamais prise à la prendre également. Alors, et moi donc ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que on n'était pas très nombreux pour cette méditation colonne bouddhique. Je ne sais pas combien de personnes ont répondu à l'appel. J'avais fait un petit sondage dans le groupe Méditons ensemble pour la libération planétaire. Et au final, je ne sais pas combien on était. On était peut-être 25 personnes, j'en sais rien, mais sachez que 25 personnes qui font une méditation colonne bouddhique au-dessus d'un même lieu, c'est hyper puissant. C'est vraiment très, très puissant. On n'a pas besoin de faire des méditations de masse pour avoir de la puissance et du résultat. Et je pense qu'effectivement, ce soir, c'est bien ce qu'on a fait. C'est vraiment bien ce qu'on a fait. Donc, voilà, la méditation. Alors, oui, pardon. Alors, Florence, tu souhaites t'exprimer. Peut-être que tu as… Oui, tu as participé aussi, je le sais. Vas-y, active ton micro. Tu as participé à cette méditation.
Oui, bonsoir.
Vas-y, on t'entend.
Oui, alors, moi, j'avais juste fait en plus une demande supplémentaire. C'est-à-dire que quand j'ai vu Alphonse, là, en fait, il s'est très rapidement brouillé lui-même. Et il a été remplacé, donc, parce que c'est ce que j'avais fait ma demande au départ, il a été remplacé par des êtres de lumière et qui venaient apporter la vérité, rassurer les gens et la libération.
Il n'y a pas eu beaucoup de vérité dans son discours ce soir.
Non, mais en fait, moi, c'est ce que je voyais, c'est qu'en fait, à la place de lui, on voyait des êtres de lumière qui annonçait, alors c'est certainement pas maintenant, puisqu'on a bien vu que l'autre balançait son speech, mais peut-être qu'après, c'est ce qui va se passer. Enfin, j'en sais rien de toute façon, mais c'est ce que je voyais. Je voyais que lui-même était brouillé, en fait, et qu'il était remplacé par de la lumière.
D'accord, bah, super. Bah, ça, c'est bien, ça fait plusieurs témoignages qui vont dans le même sens.
Oui, c'est ce qui fait plaisir. En fait, on a tous ressenti à peu près les mêmes choses avec des visions, des visualisations quand même similaires. Et c'est vraiment sympa à entendre.
Ah, et si vous voulez être parmi de ceux qui pourront dire après l'événement « J'y étais », j'ai participé à la victoire de la lumière. Et je pense que tous ici, vous y participez à votre façon. Ben, restez connectés là, sur le groupe Méditons Ensemble pour la libération planétaire. Il y aura d'autres initiatives dans ce genre. Et Sandrine, je t'invite d'ailleurs. Franchement, c'était vraiment super. Ton idée était vraiment géniale. Et s'il y a d'autres occasions, il ne faut surtout pas hésiter à réitérer cette initiative. Donc voilà. Alors, je parlais justement de mais enfin, on n'a pas besoin forcément d'être très nombreux pour pouvoir avoir un effet. À partir du moment où on est, on est focalisé sur une intention bien précise, et puis qu'on est aussi synchronisé, puisque dans ce cas-là, on avait pour objectif de démarrer à 20h justement tous ensemble pour être synchronisé avec le même support audio-vidéo. Et en fait, moi, ça me donne envie justement de parler, de faire une transition vers les fameuses méditations de masse qui suscitent encore beaucoup de polémiques, et je le vois dans les groupes, y compris dans le groupe Révolution Vibratoire. Alors, je vois qu'il y a Daniel qui souhaiterait prendre la parole. Vas-y, Daniel, et puis après, je vais continuer sur mon idée des méditations de masse. Tu dois activer ton micro pour
oui, merci. Merci. Vas-y. Beaucoup. Oui, c'était pour vous dire que j'ai aussi médité avec vous, mais comme je ne savais pas ce que c'était un tube, une méditation bouddhique, mon intention, bien sûr, elle était celle que Sandrine a émis. Et puis, de mon côté, j'ai fait une installation de bouclier de protection à travers le 8. Voilà, et pour monter les vibrations. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose d'important et comme une communion avec vous tous. Ça. Voilà, c'était très chouette. Merci en tout cas de l'avoir initialisé.
Alors, peut-être une dernière précision, parce que c'est vrai que ce mot de bouddhique, il peut sembler un petit peu barbare. En fait, ça fait référence, si vous voulez, aux sept plans de la création. C'est des choses dont on avait parlé dans des lives fin 2020. Là, on avait fait pas mal de lives, parce qu'il y avait eu 5 méditations très importantes sur décembre 2020. Et on avait parlé justement de ces 7 plans de la création. Et en fait, quand on part des plans les plus subtils, donc on part du plan divin, ensuite il y a le plan monadique en dessous, ensuite le plan atmique. Et le quatrième plan à partir du plan de la création, c'est le plan bouddhique. Le cinquième, c'est le plan mental, en fait. Sixième, astral. Et le dernier, c'est le plan physique. Et donc, en fait, ce plan bouddhique, donc, il est situé au-dessus du plan mental. Et enfin, on parle de colonne bouddhique parce que justement, c'est au-delà de la dualité. La dualité, en fait, elle n'est possible que dans les plans physiques, astral et mental. Et en fait, en positionnant justement une intention sur le plan bouddhique, en fait, ils ne peuvent rien faire. Les forces sombres ne peuvent rien contre ça parce que c'est au-delà de leur portée. Voilà, je n'ai pas donné cette précision, mais je pense que c'était quand même intéressant de la donner.
Oui, merci beaucoup.
Donc, allez, on y va. C'est pas grave si mon planning est perturbé. Il y a Agnès qui veut intervenir. Vas-y, Agnès. Tu peux activer ton micro, Agnès Énergie, on t'écoute.
Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien ?
Très bien.
Ah, super. Bonsoir Gwen, c'est Marie-Agnès, on s'était rencontrés au mois de mai.
Salut Marie-Agnès.
Salut. Je suis très contente de vous retrouver tous, et y compris Dédé Laurent aussi pour la pierre de Sintamani, qui m'a très gentiment livrée il y a quelques semaines. Donc bonsoir à tous. Moi également, c'est la première fois que je parle sur ce salon. Je voulais juste préciser, donner mon témoignage par rapport à cette méditation de colonne bouddhique, parce que Hervé, pardon, tu as mentionné le protocole de protection et le côté inattaquable du fait de ce plan, de ce plan bouddhique. Et donc, je suis arrivée au début de la méditation sans vraiment me préparer, sans regarder non plus la vidéo explicative que Sandrine avait mis en partage. Et je suis habituée à méditer, à me connecter à la source, à Gaïa, à mon moi supérieur. Et ça m'est pas venu au début de la méditation de me protéger, en fait, de faire un protocole de protection. comme j'ai entendu et j'ai vu plus tard qu'il était recommandé de faire. Et je n'ai pas senti, en fait, je n'ai pas senti de danger particulier, de perturbation, ni de... de danger ou d'attaque possible. Par contre, j'étais tout de suite en confiance dans une présence très très forte. Mon corps était vraiment très dense, mais c'était une sensation agréable. Voilà, c'était agréable. J'ai senti une puissance aussi venir en moi. J'ai eu plusieurs fois des vibrations très fortes qui ont secoué mon corps. Et pour moi, ça c'est à chaque fois que je ressens ça, ça m'indique une connexion sur les plans vraiment supérieurs, vraiment forte. Je voulais préciser aussi autre chose, ça m'échappe. J'ai senti aussi cette connexion universelle, quelque chose de sûr, de sécure et d'immuable. Voilà, de quelque chose qui, de toute façon, on avance. De toute façon, nous sommes lumière. De toute façon, ça se fera. Voilà, vraiment ce côté puissant et certain. J'ai pas eu de visuel, j'ai eu quelques pensées, j'ai pas vu monsieur de la télé, mais c'était très loin tout ça. J'ai pas eu d'intention particulière, si ce n'est d'être connectée à ce plan de lumière. Et voilà, ça s'est fait très naturellement, mais en puissance. Voilà, et je me suis sentie très bien, et encore maintenant, moi, je me sens encore très très bien. et connectée vraiment dans ce... Ouais, vraiment dans la communauté de lumière, si je puis dire. Voilà.
C'était la première fois que tu faisais cette méditation colonne bouddhique ou tu l'avais déjà faite avant ?
Oui, exact. Non, c'était la première fois. Je ne connaissais pas, en fait. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de protocole. Et j'y suis allée vraiment en confiance, vraiment sans préparation, sans information, plus que ça, plus que ce que j'avais lu sur Révolution vibratoire. De ce que Sandrine avait partagé et je ne suis pas allée chercher plus loin en fait. Je me suis dit, allez hop, 20h c'est l'heure et je suis arrivée juste à temps. Donc j'ai vraiment pas eu dans la journée, ça ne m'est pas venu à l'esprit non plus d'aller chercher des informations. Donc là, je vais le faire plus tard.
Alors j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es recruté dans les commandos guerriers de lumière puisque tu es un redoutable sniper. Si dès la première fois tu arrives à un tel résultat, je pense qu'on a besoin de gens comme toi justement pour faire des colonnes bouddhiques partout là où il y a des, on va dire, des endroits clés ou à des moments clés. Donc franchement, n'hésite pas à la refaire. Hein. Tu es recruté. Ouais.
Eh ben alors, c'est un honneur. Mais je ne savais pas du tout dans quoi j'allais. En même temps, j'ai une forte... Après, je me suis dit intuitivement, comme j'ai une forte connexion à l'énergie bouddhique et christique, je me suis dit, bon, ben, ça va le faire, hein, tout simplement. Je suis habituée à ce genre d'énergie. Et c'est pour ça que je suis allée vraiment en confiance. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir proposé aussi ce... Sandrine, cette méditation sur ce canal, parce que je me suis abonnée il y a très peu de temps et ça me parle énormément. Donc, merci Hervé.
Voilà, l'équipe des gardiens de la galaxie s'agrandit de jour en jour et on est content d'avoir des guerriers d'élite dans cette troupe.
Ouais, guerriers pacifiques, parce que là, c'est vraiment, j'ai ressenti une grande paix aussi. J'ai ressenti une confiance vraiment puissante, intense. Ouais. Et du coup, juste après la méditation, pour la petite anecdote, ma fille aînée m'envoie le résultat du discours, de la locution. Et alors là, ça m'est largement passé au-dessus. J'ai presque rigolé. Je me suis dit, ça ira, ça va nous rapprocher encore plus du point de bascule et du point de rupture. Et puis tant mieux. Enfin, pour moi, tout ça, c'est que du positif. Mais ça m'a vraiment permis de me sentir vraiment au-dessus et toujours ancrée et dans ce mouvement d'ascension. Enfin, ça ne m'a pas perturbée du tout, au contraire.
Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'on a réussi à sécuriser une certaine mesure, dans une large mesure, la ligne de temps. On aurait pu effectivement traverser des choses beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, on est sur une ligne de temps qui est pas trop dégueulasse, si je peux me permettre l'expression, même si on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout. Donc, et puis alors, faut pas oublier qu'on est très aidé aussi sur le nettoyage des plans subtils. Donc, tu disais que tu n'avais pas senti justement de perturbation particulière, mais faut dire qu'il y a un gros ménage qui est fait sur les plans subtils par nos alliés. Alors, je suis désolé hein, pour ceux qui débarquent sur le salon vocal. S'il y a des choses qui vous semblent complètement lunaires ou dont vous ne comprenez rien, n'hésitez pas à lever la main et à poser la question. Parce que c'est vrai que ça présuppose un certain corpus de, on va dire, d'informations que vous n'avez pas forcément.
Oui, mais merci pour toutes ces précisions, parce que c'est important de le répéter aussi et de resituer le contexte dans lequel on est, parce qu'il évolue, il se précise chaque jour, en fait, de plus en plus, chaque jour, chaque instant, et c'est important. Et tous ces rendez-vous, là aussi, ça soutient. Ça permet de visualiser, de visualiser la famille, enfin la famille de lumière, quoi, dans quoi on est inscrit et vers quoi on s'achemine. Donc c'est important.
Tout à fait. Et on dessine des traits de lumière entre nous justement lorsqu'on fait ces émissions, lorsqu'on échange dans la bienveillance et dans le respect. On dessine des traits de lumière entre nous, et je pense que ça aussi c'est très important. Ça participe à cette ascension. Oui.
Oui, complètement. Ouais. Mais j'ai senti ça hein, pendant. Moi, je suis restée une demi-heure dans cette méditation de colonne bouddhique. Mais j'ai ressenti toute cette unité, en fait. Tu parlais de corpus tout à l'heure, mais cette unité, et de toute façon, c'est déjà en marche. On y est déjà, quoi. On y arrive déjà.
En marche ? Non, pas ce mot-là.
Non, pardon. Ça m'a échappé. Voilà, mais on y est. On y est déjà.
Ouais, ça fait du bien. Tout à fait. Ouais, on est presque. Ouais, tout à fait, on y est presque. Est-ce que, on reste sur ce thème de la colonne bouddhique, mais c'est super intéressant et puis important aussi parce que ça nous permet de parler de différentes choses. J'ose plus continuer sur mes idées puisque je vois qu'il y a plein de gens qui veulent intervenir. Donc, je vous invite à nouveau à vous manifester. Okay. Si vous souhaitez intervenir, compléter. Moi, j'aurais envie de vous poser la question, mais parce que c'était un petit peu le thème de la soirée. Au final, c'est quoi la méditation ? C'est quoi votre vision ? C'est quoi ? Enfin, qu'est-ce que vous diriez si on vous demandait de définir la méditation pour vos enfants, peut-être ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, c'est encore Agnès Énergie.
Ouais.
Moi, comme je la présente, la méditation, donc à mes enfants, aux personnes auprès de qui j'anime des cercles de méditation ou de relaxation, ou même tout simplement des personnes qui viennent me rendre visite dans mon jardin méditatif, c'est le cas de le dire, c'est justement la pleine conscience du moment présent, au maximum, au possible. Donc, méditer, c'est être présent à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à ce qu'on ressent à chaque instant. Voilà, c'est vraiment cette conscience d'être, mais d'être en connexion aussi. Alors, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être comme j'aime le faire, moi, dans l'action. C'est-à-dire, je regarde ce que je fais, même ce que je ne fais pas, mais c'est dans le moment présent. C'est vraiment important. Et ça peut être aussi, comme tu disais tout à l'heure, avec l'imagerie d'Épinal, être assise en tailleur, les yeux fermés et en silence. Voilà. C'est le mot principal que je dirais, c'est l'observation en présence de ce qui est. De tout ce qui est en soi et autour de soi. Voilà, pour moi.
Alors, c'est super que tu parles d'observation en présence parce que moi, ça me permet aussi de faire passer une information sur le démontage aussi d'une idée commune, mais peut-être que vous êtes tous au-delà de ça, hein, c'est possible. C'est-à-dire que souvent, on dit, la méditation, il faut arriver à stopper le mental. Mais en fait, c'est la mauvaise approche pour la méditation.
Ouais. Oui.
Vas-y, Agnès.
Non, mais c'était pour rebondir sur ce que tu disais, tout à fait. Le mental, les pensées, le mental est toujours en action. L'important, c'est de ne pas focaliser dessus et de les laisser passer, les pensées. Et à un moment donné, comme on ne met pas de résistance sur ce qui est sur ce qui est, c'est ce qui est fabriqué par le mental, ça s'estompe naturellement. Mais c'est un exercice, hein, c'est de l'entraînement. Moi, au début, ça fait plus de 10 ans que je m'y suis mise activement à méditer. Bah, j'ai compris que résister au mental ou essayer de le stopper, ça le renforçait, donc c'était contre-productif. Et c'est de faire la paix avec soi, aussi par rapport au mental, aux pensées, mais aussi par rapport aux émotions, c'est-à-dire vraiment être présent et d'accueillir tout ce qui est en soi. Donc les pensées, les ressentis, les émotions, mais pas surtout pas être en lutte. Donc les pensées, ça en fait partie. Et ce qui est important aussi, quand on laisse les pensées passer, c'est qu'on focalise son attention sur autre chose. Ce qui fait que les pensées n'ont plus autant d'importance ni d'impact sur notre concentration et notre conscience, sur ce qu'on observe. Donc, c'est un exercice.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, moi, je le vois vraiment comme un exercice d'écoute intérieure. En fait, on se met à l'écoute de soi. C'est pour ça que fermer les yeux peut faciliter les choses. Ce n'est pas une obligation. Mais on se met à l'écoute de soi et je dirais de ces mouvements, les mouvements de l'âme un petit peu naturels. Et du coup aussi, en se mettant à l'écoute, forcément, le mental va s'apaiser naturellement. Et ce qui va pouvoir venir plus facilement, puisqu'on laisse la place à quelque chose, ça va être justement tout ce qui vient du plan bouddhique, tout ce qui vient du plan intuitionnel, puisque le plan bouddhique, c'est le plan intuitionnel. Donc, ça nous permet encore de garder notre fil rouge par rapport à notre méditation bouddhique de tout à l'heure. Mais ce qui est important aussi dans la méditation, c'est ça, c'est d'aller trouver cette connexion avec le plan de l'intuition, une connexion plus forte et développer cette connexion avec le plan de l'intuition. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir justement pour nous donner sa vision de la méditation ? Alors, j'ose pas interpeller les personnes parce que j'ai peur de vous bousculer, mais je vous invite à demander la parole ou à la prendre. Oui, Neige ?
Ouais. Bon, j'ai l'impression que c'est la soirée des premières fois. Non, ouais. On entend bien ? C'est bon ?
On t'entend très bien.
Ok. Alors, moi, la méditation, c'est vraiment un temps suspendu où, en fait, ça rejoint aussi mal d'éléments qu'a dit Agnès et toi, Hervé, sur un retour à soi, une observation de sa respiration. Et oui, effectivement, ne pas lutter contre les pensées, mais vraiment être dans un état d'accueil. Et c'est vrai que ça a été progressif pour moi depuis que je fais du yoga il y a 15 ans. Et en fait, j'ai vu aussi l'évolution par rapport à ce qu'on pouvait présenter comme la parfaite méditation et finalement le pouvoir aussi de l'imaginaire. Et du coup, ça, je l'ai utilisé avec des enfants dans le cadre de mon travail, avec des enfants qui sont dans des quartiers difficiles, à côté de Grenoble, où ils voient quand même pas mal de choses pas terribles, et ils sont très, très agités. Et du coup, je me permets de leur proposer, en fait, en tant que responsable de la structure associative, de voir un temps de retour à soi et de respiration. Et c'était vraiment pas évident les premières fois, vraiment pas. Ils bougeaient comme des vers de terre, ils pouvaient pas rester, ne serait-ce que écouter leur respiration pendant que quelques secondes, c'était vraiment un sacré défi. Et en fait, on voit que c'est un entraînement. On est dans une société où tout va vite, on est toujours dans la réaction, on est toujours dans un élan d'aller vers l'extérieur et de pas aller dans l'intérieur. Et ce mouvement-là, les enfants, en tout cas, ont pu le trouver comme bénéfique plus tard, alors qu'au départ, c'était pas du tout quelque chose qu'ils appréciaient quand je leur ai présenté. Et maintenant, ils le réclament, quoi. Donc, c'est génial. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose à la fois d'intérieur, d'une observation. Ça peut être multiple, ça peut être vraiment très variable selon les moments. Il y a pas de, pour moi, c'est pas figé, la méditation. C'est vraiment illimité. Et alors, par contre, quand c'est guidé comme ça permet après à chacun de peut-être se connecter plus rapidement. Voilà. Après, bon, il y a plein de choses à dire, mais je ne veux pas prendre non plus la parole. J'aime bien aussi ne pas trop parler. Voilà.
Super, merci beaucoup. Non, mais quand la prise de parole je dirais, elle est justifiée, elle apporte de la valeur, elle a tout son sens, même si tu prends un petit peu de temps, il n'y a aucun problème. Et effectivement, le fait de travailler avec les enfants, c'est génial, parce que là, c'est double bonus. Éduquer un enfant à... Enfin, éduquer. Je ne sais pas quel mot
inviter,
employer.
Inviter l'enfant.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ou l'initier justement à cette pratique qui est formidable. Je pense que c'est vraiment une action de lumière, parce que voilà, ça va faire justement des adultes ouverts à ça, et c'est vraiment génial.
Voilà, donc c'est super, dans le sens où en plus elle travaille avec des enfants en difficulté, donc là c'est leur permettre d'ouvrir un espace avec eux-mêmes que dans leur contexte familial ils peuvent pas forcément l'avoir, et du coup c'est leur ouvrir en fait d'autres réalités quoi qui sont hyper importantes. Je trouve ça génial ce que tu fais avec eux.
Ouais, en tout cas c'est chouette, parce que vraiment j'ai pu vraiment voir l'évolution, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment éloigné de leur vie. Et quand je vous dis qu'ils sont speed, mais ils sont vraiment, vraiment speed, quoi. Donc, je suis vraiment contente qu'ils aient pu, en tout cas, avec de l'entraînement, puis je le présente vraiment d'une manière ludique, et puis après, ils choisissent les musiques relaxantes, avec, voilà, les bruits de l'océan, des vagues, enfin, voilà, ils sont aussi acteurs aussi au niveau des choix des musiques, et puis c'est très variable, il faut pas qu'ils aient l'impression que ce soit, subi. Et du coup, bah voilà, c'est vrai que après, je sais pas ce qu'ils en feront. C'est juste semer une petite graine, et puis après, voilà, je le fais pas systématiquement. Je développe beaucoup mon intuition avec les enfants. Donc, du coup, il y a des moments, bah je vais pas le proposer. J'essaie vraiment de le mettre vraiment comme un moment qui puisse les aider à se souvenir que ah bah voilà, quand t'es pas bien, quand t'as une émotion qui est dure, tu te sens pas bien, ou quand juste voilà, tout le monde est agité parce que vous êtes tous excités parce qu'à l'école c'était hyper dur la journée, et ben où vous avez vu à chaque fois voilà les policiers dans le quartier, et ben là à ce moment-là voilà, ici on est dans notre bulle et chacun peut se mettre dans sa bulle. Voilà, juste 30 secondes. Ne serait-ce que 30 secondes ou moins, c'est pas grave. Il y a pas de notes, il y a pas de d'évaluation. Voilà. Et ça voilà, au quotidien il se l'approprie au fur et à mesure, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est chouette.
C'est clair, excellent.
Est-ce que quelqu'un d'autre donc souhaiterait participer justement, enfin souhaiterait partager sa vision de la méditation, comment vous la voyez, comment vous la vivez, est-ce que justement vous faites des groupes de méditation? Ça pourrait être intéressant. J'y pense comme ça là, Gwen, que tu nous parles un petit peu justement de la sororité, parce que la sororité, on avait fait une émission là-dessus avec Marion, mais vous pratiquez beaucoup la méditation justement dans les groupes de sororité. Ce serait intéressant que tu nous en parles.
Oui, complètement. Alors là, c'est vrai que c'est encore une autre façon pour la méditation, dans le sens où on est vraiment sur une action. Là, je dirais, parce que là, on est vraiment pour ancrer les énergies de la déesse sur la planète. Mais en tout cas, dans les ressentis, dans les sensations de ce qu'on ressent et ce qu'on vit au travers des sororités, on se reconnecte vraiment, en fait, on la sent, cette énergie divine. Et chaque sororité qu'on fait, ce qu'on se rencontre tous les vendredis soirs, on reste toujours sur cette finesse, sur cette couleur de l'énergie divine. Et on se rend compte qu'à chaque méditation qu'on fait, on va capter une certaine couleur, mais toujours dans l'énergie féminine. Et qu'on se rend compte que que la palette entière de cette couleur-là, elle est vraiment très complexe et hyper large. Et du coup, c'est très, très intéressant que même à travers l'énergie de la déesse, il y a énormément de sensibilités différentes, en fait, à chaque méditation. On capte toujours une essence différente, mais qui reste toujours liée à la féminité, quoi. C'est hyper intéressant de découvrir ça. Et ça montre, encore une fois, la richesse qu'on apprend, qu'on découvre au fur et à mesure à travers ces méditations, de ce qu'on peut ressentir et découvrir, tout simplement, quoi.
Est-ce que tu peux nous décrire justement en quelques mots cette méditation de la déesse? Donc, on a beaucoup parlé de la méditation colonne bouddhique ce soir, et la méditation de la déesse, justement, c'est une méditation qui peut être faite par des déesses que vous êtes, mais aussi par des dieux que nous sommes. Il n'y a pas de sexisme, mais est-ce que tu pourrais justement nous dire en quelques mots en quoi ça consiste, justement, parce qu'il y a des mantras qui sont utilisés en plus dans cette méditation?
Oui, alors déjà, c'est vrai que tu as raison dans le sens où c'est pas fermé aux femmes. Les hommes ont toute leur place avec nous. Il y a même un homme, des hommes qui viennent aux sororités. Et en fait, nous, on commence la sororité avec une première méditation. On utilise la présence je suis et guérison émotionnelle. Voilà, pour déjà se poser, exactement comme expliquait Neige avec ses enfants, pour couper un peu de cette routine et vraiment se centrer sur nous-mêmes et nous aligner. Et ensuite, une deuxième partie où c'est vraiment là la méditation, le vortex de la déesse, où en fait, c'est une méditation qui est très courte, qui est pour moi une méditation active dans le sens où elle dure 7 minutes et on est debout en fait et on se transforme au fur et à mesure avec les mains levées vers le ciel et on tourne sur nous-mêmes en chantant un mantra I qui permet en fait que l'on devienne un pilier de lumière mais avec que des étoiles arc-en-ciel à l'intérieur. Et donc du coup en ayant les mains vers le ciel, on sent en fait cette énergie qui descend et on se remplit. Et la deuxième partie de la méditation, on baisse les mains et on ouvre en fait un vortex qui part du chakra du cœur. Et de ce vortex qu'on crée, en fait, on envoie un vortex de couleur arc-en-ciel, étoile arc-en-ciel, en tournant toujours à travers sur la planète Terre, quoi.
Ouais, et puis pour l'avoir pratiqué justement avec toi dans ton groupe, c'est vrai que il y avait une personne aussi qui était avec moi qui était un petit peu, on va dire, sceptique par rapport à ça. Et elle en a reconnu toute la puissance, quoi. C'est une méditation dynamique, c'est-à-dire que là, ça nous amène à un autre aspect justement de la méditation, c'est-à-dire que une méditation, justement, on n'est pas forcément dans les clichés de la personne assise en tailleur et immobile, comme on disait tout à l'heure, mais là, c'est une méditation qu'on fait debout. Et on tourne sur soi, on fait un mantra, on utilise les bras aussi, les bras tournés vers le haut ou les bras vers le bas. Donc, on est vraiment dans une méditation dynamique. C'est un peu comme les derviches tourneurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces mystiques, justement.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est mystique de l'islam. Mais il y a un petit aspect, justement, comme ça, là où on tourne. Enfin, moi, j'aime bien cette méditation, justement, parce qu'elle est dynamique. Et voilà. Et puis les mantras en fait sont là pour venir dynamiser les chakras en fait. Hein. Il y a les mantras, les lettres qu'on prononce correspondent justement à des chakras et sont là pour les dynamiser.
Exactement. Et puis on le voit bien parce que cette méditation est très courte, elle dure que 7 minutes. Entre le début et la fin, l'expansion des champs en fait. Au début, c'est calme. Et plus on va vers la fin, aux 7 minutes, et à la fin, c'est vraiment c'est puissant, le chant qui sort de chacun. Et c'est là qu'on voit qu'en plus, notre voix, elle ressort la puissance que l'on prend au fur et à mesure de la méditation. C'est vrai, c'est magnifique. Et à savoir que cette méditation, elle est faite mondialement tous les jours. Alors, il faudrait que vérifier l'heure sur Wheel of Mass Meditation, mais je crois que c'est 14h ou 14h30 UTC. Et tous les jours, il y a une méditation Vortex de la Déesse qui est faite mondialement.
Et tout ça parce que justement, nous croyons, nous qui sommes justement dans cette mouvance Prepare for Change en lien avec le contact Ecobras, en fait, puisqu'il y a des enseignements qui ressortent, qui étaient des enseignements de société secrète, mais que lui remet au jour, en fait, nous croyons à la puissance de ces méditations synchronisées et focalisées. C'est pour ça qu'il y a ces rendez-vous. Donc là, tu parles du rendez-vous justement pour la DS, mais il y a eu beaucoup de méditations mondiales qui ont été organisées. Il y en a un petit peu moins cette année parce qu'on est plus, on est sur un autre mode de fonctionnement avec des méditations qui sont proposées toutes les 4 heures sur des thématiques spécifiques, comme il y en a eu justement pour emmener des entités très sombres vers le soleil central galactique ou pour stabiliser les énergies de paix là où il y a des tentatives de déclencher des conflits, comme au Moyen-Orient, en Ukraine ou ailleurs. Donc voilà, bon, là, le mode de fonctionnement est un petit peu différent cette année, mais on est vraiment, faut vraiment nous voir en fait comme un groupe d'action coordonné au niveau mondial. Et en fait, on sait que ça marche, hein, puisqu'on en a eu la preuve à plusieurs reprises, que ces méditations focalisées et synchronisées ont un effet très puissant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Maharishi, hein, pour donner un terme, un nom technique à ça. Donc, c'était des expériences qui ont été faites pendant la guerre du Liban dans les années 80, où on a remarqué justement que des personnes qui méditaient en même temps de façon focalisée et synchronisée. Alors, je suis même pas sûr qu'elles étaient synchronisées à l'époque sur les expériences de Maharishi. En tout cas, il y avait différents groupes qui faisaient des méditations et on observait qu'il y avait moins de violence, que moins de conflits, et quand il y avait des conflits, moins de victimes lorsque ces groupes justement méditaient pour la paix. Donc c'est ce qu'on a appelé l'effet Maharishi. Enfin, voilà, c'est un terme, peu importe, hein, mais en réalité, on sait que ces méditations ont beaucoup d'effets. Nous, on l'a observé à plusieurs reprises, et notamment moi, un effet qui m'a marqué, c'était lors de la méditation du 5 avril 2020, qui a fait un buzz énorme. Lors de laquelle on a explosé la masse critique. Alors, encore peut-être un nouveau concept pour vous, je ne sais pas, la masse critique. Masse critique, c'est-à-dire 144 000 personnes au niveau planétaire. Et ben, lorsqu'on a fait cette méditation, on a infléchi le nombre de contaminations à la COVID-19, puisque ça démarrait à peine à l'époque. Enfin, ça démarrait. On était en plein dedans. On était au moment du premier confinement. Et c'était vraiment très, très visible sur la courbe. Notre méditation mondiale qui a mobilisé énormément de personnes a réussi à infléchir de façon très visible et très significative. Personne ne pourra vous en expliquer la raison. Donc voilà, cette courbe de contamination. Donc c'est un exemple, hein. C'est un exemple, mais on peut aussi agir, aussi étrange que cela puisse paraître, on peut aussi agir sur les phénomènes climatiques en méditant. Et ça aussi, ça a été fait à de multiples reprises, puisqu'on sait que la guerre climatique est un outil qui est utilisé par les forces sombres, notamment quand il y a des cyclones qui sont amorcés par des technologies. Ben on peut contrer ça par l'action méditative de groupe. Et ça aussi, on en a vu les effets à plusieurs reprises. Et le groupe, enfin le site internet Wheel of Mass Meditation, à plusieurs reprises, a appelé justement à des méditations synchronisées pour stopper des phénomènes climatiques dévastateurs. Donc voilà, je veux pas monopoliser la parole non plus. Est-ce que vous souhaiteriez intervenir par rapport à ça, justement, par rapport aux effets de la méditation? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, sans parler de stopper un cyclone ou de stopper une guerre, qu'est-ce que vous avez pu observer dans votre quotidien, justement, par rapport à ces méditations? On est là aussi pour partager, hein, on n'est pas là pour faire un exposé avec les sachants d'un côté et les apprenants de l'autre. On est là justement pour apprendre les uns des autres. Donc ça, je vous invite à intervenir. Allez, un petit effort, je suis sûr. Pour d'autres personnes, franchissez le pas et prenez la parole peut-être pour la première fois ce soir pour nous parler de votre expérience de méditation. Daniel.
Ben, je veux bien... Ah oui, s'il y a quelqu'un d'autre.
Non, pardon, j'ai vu. Dans l'ordre que vous voulez, allez-y.
C'est comme on veut pour moi, mais bon, voilà. En fait, par rapport aux méditations, j'ai appris tellement de méditations différentes que j'ai un petit peu difficile d'expliquer, parce que tout ce que vous avez dit, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est vraiment très juste. Donc, il y a tellement de sortes de méditations différentes, mais ça, elles amènent toutes, je vais dire, à ce recentrage, pour moi aussi. Et il y avait une petite anecdote de mon fils, parce que quand il était petit, il voyait les auras. Et alors, quand je le mettais au lit, je lui disais, ben voilà, je vais méditer. Et il me disait, mais maman, c'est bien que tu médites. Parce qu'en fait, tu disais bleu et tes couleurs s'éclaircissent beaucoup. Donc, c'était vraiment... Mais on faisait des méditations transcendantales. Donc, c'est avec beaucoup de mantras pour se reconnecter à notre mère divine, à notre être. Mais il y avait aussi des méditations d'observation. Pardon. Je vais par exemple donner l'exemple de méditation de rétrospection. Donc, c'est faire une rétrospective de sa journée pour voir un petit peu les comportements qu'on a eus. Donc, c'est sûr qu'au départ, mais c'est difficile, on ne voit pas grand-chose. Et disons qu'au fur et à mesure, ben, la rétrospection se fait beaucoup plus facilement et vient à nous les comportements qu'on a eus, dont on ne se rend pas compte. Et puis après ça, alors on peut travailler sur justement ces comportements. Encore une fois, ça a été beaucoup ciblé sur la mère divine, donc sur la Kundalini. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et tous ces outils, je vais dire, qui ont été, que j'ai suivis, amènent effectivement à cette ouverture de conscience où les choses deviennent autour de nous, quand on est observateur dans notre environnement et tout, les choses sont beaucoup plus nettes, les couleurs sont plus vives et on est beaucoup plus en état d'observateur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion ni rien du tout, hein. Parce que parfois je suis prise aussi dans mes émotions et c'est vraiment quitter cette lutte, effectivement. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à faire. De se reconnecter et d'avoir de l'intuition et de se sentir guidée d'avoir des visions, etc. Donc, c'est vraiment cette reconnexion, en fait, à nous-mêmes, avec notre principe divin. C'est peut-être un peu fouillis ce que je dis, je ne sais pas, parce que bon, comme je dis, j'ai eu tellement de sortes de méditations, parce que même, je vais dire, en faisant quelque chose, on peut être dans un état méditatif. Donc, c'est une méditation active. Il y a tellement de sortes de méditations qu'il faut trouver, je pense, celle qui nous convient le mieux pour commencer, hein, dans un début et voir un petit peu ce que ça apporte. Ce que ça développe.
Le pêcheur qui pêche, justement, n'est-il pas aussi un petit peu en méditation ?
Si.
Je pense aux pêcheurs à la ligne qui sont sur le bord des étangs, par exemple.
Tout à fait, tout à fait. Donc, quand on est en activité, on peut être tout à fait dans un état méditatif. Et on a aussi des réponses quand c'est comme ça. On peut très bien, je ne sais pas, moi, devant le miroir, commencer à se maquiller et être dans un état méditatif et avoir à un moment donné, cloups, ah tiens, ben oui, voilà une information que je cherchais, voilà la réponse à ma question. Et c'est comme ça qu'on se sent guidé, parce qu'on est attentif aux synchronicités. Et on cherche les messages qui nous sont donnés à ce moment-là. C'est aussi une méditation. Observer la nature, c'est une méditation. Être en contemplation, c'est une méditation. C'est pas que, comme tu disais, rester assis en tailleur et calmer son mental. Mais je fais ça aussi. Et là aussi, j'ai eu plein d'anecdotes assez comiques par rapport au mental, parce que j'ai appris tellement de mantras différents que j'ai utilisés ou qu'on utilisait en groupe, puisque c'était un groupe dans lequel j'étais. Et je sais pas, on avait un mantra pour calmer le mental, et qui était au départ très très lent, et puis qui s'accélérait, et on se plantait parce que c'était assez difficile à dire. Et puis, quand on a fini cette méditation où on mantralise en question, ben, j'ai vu une pièce fermée, une porte qui s'ouvrait, et puis j'entends « ça y est, c'est fini, on peut rentrer ». Donc c'était vraiment l'ego qui était parti. Donc le mental s'était calmé, il était vide. Et puis après la méditation, ben, il est revenu évidemment. Donc ce sont des petites choses que il y a plein d'anecdotes comme ça que j'ai vues en méditation qui sont assez comiques avec d'autres choses, quoi. Donc voilà un petit peu. Il y a différentes possibilités, voilà, et qui ramènent tous à la même chose, ce recentrage en question. Donc voilà.
Très bien. Bah oui, moi je parlais de jeu de construction aussi dans les plans subtils tout à l'heure avec la méditation. Toi, tu nous parles de l'ego. Finalement, on est dans la même thématique.
Mais écoute, C'est vrai, mais moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été beaucoup focalisé là-dessus. Je crois que je suis une technicienne de surface, tu vois. C'est comme ça qu'on appelle les femmes d'ouvrage aujourd'hui. Elles nettoient, elles nettoient, elles nettoient. Ça a été plus mon chemin, je vais dire, ça a été d'observer cet ego et de nettoyer parce qu'il y avait beaucoup de blessures, etc. Donc, ça a été beaucoup plus centré là-dessus.
Non, mais j'ai voulu faire une mauvaise blague, elle est complètement tombée à plat, mais ce n'est pas grave.
Ah, pardon.
Mais c'est bien que tu introduises le concept de l'ego parce qu'effectivement, il a sa place dans cette discussion sur les méditations. Alors moi, je voudrais rajouter mon grain de sel, peut-être avant de donner la parole à Daniel, sur un point là par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'on parlait du pêcheur, on parlait de l'observation de la nature, par exemple. En fait, méditation n'est pas rêverie. Moi, je voudrais quand même opposer deux choses, hein, la rêverie et la méditation. Et ce n'est pas parce qu'on va être dans une rêverie qu'on va être dans une méditation. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la rêverie et la méditation ? C'est justement, c'est la focalisation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rêverie, en fait, vous vous laissez porter, vous avez votre conscience qui est défocalisée. Alors que quand vous êtes dans une méditation, vous êtes dans une intention, une intention d'observation, une intention qui n'est pas forcément de mental, plus d'écoute et d'observation, mais vous êtes focalisé. Vous n'êtes pas défocalisé comme dans le cas d'une rêverie. Je pense que ça, c'est important de faire la différence entre ces deux concepts de rêverie et de méditation.
Oui, oui, c'est tout à fait juste, oui. Parce que dans un état de rêverie, si je peux dire comme ça, on est dans un état hypnotique. Et cet état hypnotique, on peut l'utiliser en général, il sera un état hypnotique peut-être plus négatif, mais si on prend conscience qu'on est dans cet état hypnotique, on peut alors à ce moment-là revenir, je vais dire, à un état plus conscient en utilisant cet état hypnotique pour faire quelque chose de positif. Je ne sais pas si je me fais comprendre, si je suis claire dans ce que je dis.
Oui, tu es très claire.
C'est différent par rapport évidemment à une méditation où on peut faire une construction aussi comme on fait avec les méditations qui sont proposées donc par Cobra, comme celle qu'on vient de faire. C'est tout à fait différent.
Tout à fait. Alors, j'ai vu qu'il y avait Marie-Claire qui souhaitait prendre la parole. Avant ça, Daniel, peut-être tu souhaitais prendre la parole et après on la donnera à Marie-Claire.
Oui, je veux bien. Merci, Hervé. C'était pour te dire, en fin de compte, dans les différentes méditations, parce que tu as demandé les différentes méditations, moi je sais que j'ai fait la méditation depuis au moins 2 ans avec Bruno Lallemand, qui est la méditation de la planète altruiste, sur laquelle effectivement l'objectif c'était d'absorber le négatif à la fois pour soi, pour les autres et pour la planète entière, et le transformer par l'énergie de notre cœur en positif et en amour. Donc ça, tu as cette méditation. Et la méditation, pour moi aussi, c'est très important, c'est d'être ensemble. Parce qu'il était dit, hein, il suffit de 3 personnes pour à ce moment-là amener comme une colonne, comme votre colonne, que ce soit boutique, ethnique, etc. Donc c'est une colonne qui descend et qui nous permet d'être reliés aussi donc avec le cosmos. Ensuite, il y avait la méditation donc transcendantale, qui est la méditation effectivement de Maharishi, qui était lui, hein, c'était un sage, il s'appelait Maharishi. Après, on a parlé de l'effet Maharishi, et là où on fait où tu as un mantra et tu récites un mantra tout le temps. Mais bon, ça, c'est assez spécial aussi, et ils arrivent même à décoller quand... Je les ai vus décoller carrément du sol quand ils sont en état de méditation. Enfin, ça, je n'y suis pas arrivée. Et actuellement, depuis aussi 1 an et demi, donc je fais la méditation avec la science unitaire de l'intra-univers qui sont reliées avec les galactiques. Et tous les jeudis soirs, on met quelque part notre avatar donc sur internet dans un club qui s'appelle le club Internaland, Et à ce moment-là, pendant une demi-heure, eh bien, il y a une musique et tu médites. Vibratoirement, il se passe en fin de compte quelque chose. Et c'est pour ça que je dis en résumé, la méditation, elle est fiable et elle est possible et elle est efficace que quand nous sommes plusieurs dans la même direction et la même énergie de cœur, puisque de toute façon tout est issu de notre énergie d'amour, et cette énergie d'amour, et bien sûr, elle rentre en conscience, voilà, dans l'univers. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté.
Oui, merci Daniel. Le cœur, oui, justement, en fait c'est un sujet dont je souhaitais parler aussi ce soir. Je sais pas si c'est le moment, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup en fait du cœur. On parle parce que l'amour, parce que d'amour inconditionnel ou l'amour divin, donc forcément il y a un lien avec le cœur. Mais on parle beaucoup de la puissance du cœur aussi. Mais moi ce que j'observe en tout cas, c'est que pour dégager cette puissance en fait, c'est pas trivial. C'est-à-dire que on peut avoir pris conscience de l'importance du cœur, du chakra du cœur, quand on fait ces méditations, justement pour transmuter le négatif, comme tu disais tout à l'heure, Daniel. Mais en réalité, c'est pas. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Pour véritablement que la puissance du cœur s'exprime, je pense qu'il y a un gros travail à faire et un gros travail de nettoyage. Et moi, j'en reviens encore au sujet qui dérange, bien sûr, qui est ce sujet des implants. Mais en tout cas, j'ai remarqué que justement, lorsqu'on travaillait sur ces problématiques des implants, on arrivait à avoir beaucoup plus de puissance au niveau du cœur. Donc, on parle beaucoup du cœur, il y a beaucoup de théories là-dessus, et puis on est tous d'accord finalement là-dessus, sauf que ça reste un concept un peu vide. Mais en réalité, quand on arrive à développer la puissance du cœur, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont capables justement de parler de ça, de cette puissance du chakra du cœur. Je le ressens beaucoup plus comme un enseignement théorique ou répété que comme une véritable expérience. Et personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal justement à faire renaître cette puissance du cœur à cause de tout ce qu'on a pu subir justement dans cette matrice. Qui est en fait qui a été là justement pour détruire cette puissance. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais encore une fois, c'est une vision, c'est notre prisme de compréhension de la réalité. On s'est incarné dans cette matrice et avec la puissance que l'on avait, et les contrôleurs de la matrice ont fait en sorte justement de nous d'effacer en partie cette puissance pour que nous ne soyons pas en mesure de la saper. Et pour pouvoir justement la saper, cette maîtrise, il faut véritablement retrouver cette puissance cardiaque, et ça nécessite un vrai travail. C'est pas juste méditer sur le chakra du cœur et ça va venir tout seul. Moi, dans mon expérience, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui demande beaucoup de détermination.
Oui, mais ça, tu as raison. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Ça, c'est clair. Moi, je suis sur ce chemin depuis 35 ans. Donc, tu vois. Mais au-delà de ça, je pense que les énergies actuelles, elles sont tellement fortes qu'elles peuvent nous switcher. Elles nous switchent très rapidement et elles nous permettent vraiment de cet élan encore plus. Et j'entends à travers tout ce que vous dites et tous ceux qui prennent la parole, ce sont tous des enfants de cœur.
Absolument. Moi, je le vois avec les personnes qui viennent à la chambre à Tachyon. Le chakra du cœur, c'est vraiment l'un des principaux chakras sur lequel tout le monde va travailler dessus à un moment donné en chambre. C'est assez impressionnant. La sensation, tout le monde a un peu cette sensation qu'il est bloqué et que parfois ça se débloque, que des choses sortent, mais il y a toujours cette comme si une espèce de une porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Et vraiment, chez plus de 90% des gens qui viennent, on se travaille vraiment sur le chakra du cœur et qui s'arrête jamais en fait, qui revient régulièrement malgré les séances qui passent et tout, c'est, on sent qu'il y a un travail très complexe là-dessus. Et ça, je pense que Hervé a tout à fait raison, que c'est vraiment une porte qu'on n'a pas encore les compréhensions exactes, mais qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus.
Alors, je vais intervenir sur le cœur.
Le
cœur, en effet, a des facultés qu'on connaît, qu'on commence à connaître. Donc, déjà, le cœur émet sur un champ qui peut aller jusqu'à 3 mètres de diamètre. Ce qui veut dire que quand on est tous dans le métro, on est tous cœur à cœur si on est ouvert au niveau du cœur. Donc, si on est un groupe de personnes lumineuses dans un endroit qui est sombre, si tout le monde se relie de cœur à cœur, on peut remonter le niveau vibratoire, on peut remettre de la lumière. Et pour reparler un petit peu du cœur, il a 4 modes de communication avec l'organisme et il réagit avant le cerveau. Donc, le vrai cerveau, enfin, peut-être pas uniquement physique, mais il est sûrement du côté du cœur, qui a toujours été signalé chez certains occultistes, hein, le double cœur, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc, je suis d'accord avec vous, le cœur a vraiment une importance primordiale.
Et d'ailleurs, à ce sujet, donc, j'ai publié, grâce à toi, Eric, un article sur Révolution Vibratoire, sur l'émission de lumière par le cœur. Et on n'est pas dans le concept, hein, on n'est pas dans la lumière spirituelle, on est vraiment dans la lumière physique, c'est-à-dire que le cœur émet véritablement des photons, des biophotons, donc de la lumière physique. Voilà. Et il y a des expériences qui ont été faites où on met une personne dans une chambre noire on la met dans différentes conditions, justement. Alors, par exemple, non focalisé, pas de méditation. Et puis après, on la remet dans la chambre noire où on lui demande de faire une méditation. Et c'est là qu'on voit justement que le cœur s'allume. Il y a beaucoup plus de biophotons qui sont émis par le cœur.
Et surtout, quand la personne dans l'expérience, ça a bien fonctionné de manière répétée, quand la personne émettait de l'amour vers son fils pour le soigner. Autrement, il n'y avait pas de relation de cause à effet. Donc, l'amour et le cœur, ça parle. Pour une expérience qui est physique, hein, qui est quand même mesurable, quantifiable, reproductible, qui a été faite par des scientifiques allemands.
Est-ce que je peux donner un témoignage personnel ?
Bien sûr.
Alors, mon père est décédé en 2018. Avant qu'il décède, on nous a appelés d'urgence pour dire qu'il en avait pour très peu de temps. Donc, il fallait très vite se dépêcher pour aller à l'hôpital. Donc, il y a un certain nombre de membres de ma famille. Et ma petite était vraiment très, très petite. Hein, elle devait avoir 3 ans. 4 ans plutôt. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans la chambre, j'avais l'impression d'avoir déjà quelqu'un de mort, hein, très, très maigre, marqué, avec beaucoup de tuyaux. Et j'ai surmonté ça parce que pour moi, c'était super important d'envoyer beaucoup d'amour sincère à mon père. Et j'avais fait aussi tout un travail de pardon plusieurs années avant. Hein, ça a été vraiment un processus. Donc, je me suis préparée parce que c'est justement quelqu'un qui a une maladie du cœur, justement. Et en fait, là, c'est vraiment la vérité puisque je l'ai vraiment vécu. C'est vraiment dans l'expérience. Donc, j'étais très connectée à mon père. Je lui ai beaucoup caressé sa main. Et vraiment, je me suis vraiment là, dans l'énergie, j'étais vraiment là-dedans. Vraiment. Il n'y avait plus le mental. C'était vraiment le cœur qui vibrait beaucoup d'amour, qui… il n'y a pas de mots en fait, c'est vraiment vibratoire. Et en fait, le médecin, donc on est resté plusieurs heures dans la chambre, il arrive avec les résultats parce qu'il y avait des analyses à faire, etc. Et il arrive et il dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé là, mais là les résultats sont bons. Là, il a dû me prendre mais pour une extraterrestre. Parce que là, je l'ai dit tellement spontanément. Je lui ai dit, je pense que c'est vraiment l'amour qui a fait ça. Et il savait plus où se mettre le médecin, en fait, parce que du coup, il attendait une explication scientifique et du coup, il était vraiment déclaré comme partant, mon père, mais vraiment. Donc, voilà. Et en fait, il a pu tenir. Après ça, alors je dis pas que c'est moi, hein, mais en tout cas, il y a eu ce vécu-là. 6 mois, voilà. C'est à peu près 6 mois, et ensuite il est parti.
Super témoignage, tu vois, ça c'est la magie de Radio Pléiade. Là, les sujets dérivent et puis les témoignages s'enchaînent et se complètent comme des pièces d'un puzzle. C'est super, c'est vraiment super. Merci beaucoup pour ton témoignage, Neige. Et voilà, en fait, ton énergie du cœur, oui, a nourri la sienne. La lumière du cœur a nourri la sienne et l'a rallumée pour quelque temps, effectivement, ouais, c'est formidable.
Mais c'est ça qui est génial, c'est quand toi tu le vis, tu vois, tu peux le dire, et c'est pas encore, tu vois, des témoignages que t'as vu sur YouTube ou sur un bouquin et tout ça, et là tu le vis toi, et là tu t'es trop content parce que tu dis bah oui, c'est vrai, je le sentais que c'était vrai depuis que je suis petite, mais là je suis face à une situation extrême, et là le miracle se produit, quoi. Voilà, on peut dire ça.
Ouais, non mais c'est super. Alors pour continuer sur cette thématique du cœur, on est sur la thématique de la méditation en réalité. Hein, on n'a pas dévié. Moi, j'aurais voulu encore faire passer quelques informations sur le sujet. En fait, je vais dire un gros mot, mais le cœur, en fait, c'est un portail multidimensionnel. Bon, voilà, désolé, je l'ai dit. Et en réalité, ce portail, il va jouer un rôle fondamental. Lors de ce qu'on appelle la percée par compression de la lumière. C'est-à-dire qu'on attend, nous œuvrons activement pour qu'ait lieu d'ici le plus vite possible la percée de la lumière sur cette planète pour qu'on puisse enfin sortir justement de cette prison, de cette geôle, et que le voile soit définitivement déchiré pour retrouver notre souveraineté, notre liberté, etc. Et là, on sent bien, on est dans les derniers soubresauts de ce qu'on appelle la matrice. Monsieur M, qui a parlé ce soir, montre bien qu'ils sont en position complètement désespérée par rapport à ça. Ils essayent d'accélérer l'agenda tant qu'ils peuvent pour freiner la lumière, mais ça ne marchera pas. Et donc, tout ça va aboutir à ce qu'on appelle la percée par compression, donc une grande vague d'énergie d'amour du centre de la galaxie et qui sera d'ailleurs relayée par différentes galaxies, et notamment la galaxie mère de notre galaxie, de la Voie lactée, la galaxie de la Vierge. Et cette vague d'amour qui va nous frapper en douceur, va permettre justement donc d'effondrer le voile de la matrice. Et en fait, donc, on appelle ça la percée par compression. Pourquoi ? Parce que en fait, on va être pris en sandwich par une vague de lumière qui va venir du ciel, et une vague de lumière qui va venir du centre de la Terre, parce que le centre de la Terre, le cœur de la Terre, c'est aussi un portail multidimensionnel. Et en fait, et au milieu de ça, il y a nous, il y a l'être humain. L'être humain, justement, avec son cœur et avec son portail multidimensionnel à l'intérieur de lui. Et justement, ce cœur-là, et c'est pour ça qu'il est important de travailler dessus, et c'est pour ça, comme disait Gwen tout à l'heure, que toutes les personnes qui font un passage dans la chambre à tachyon se rendent compte à quel point ça travaille sur l'énergie du cœur. En fait, votre cœur va servir de stabilisateur justement pour ces énergies de lumière qui vont venir inonder de façon quasi violente en réalité la planète Terre avec cette grande vague galactique. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur le cœur, et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur la puissance du cœur pour qu'on puisse stabiliser au mieux ces énergies de la percée par compression. Alors, j'espère que ce n'est pas trop du chinois ce que je vous raconte, mais j'avais quand même envie de vous parler de ça, parce que c'est un aspect très, très important, justement, du travail méditatif et du nettoyage du cœur et de restaurer la puissance du cœur. C'est très important par rapport à ce qu'on va vivre, justement, et ce qui nous attend avec ce qu'on appelle l'événement avec un grand E. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop coupé le souffle. Alors, il y a Jean-Claude qui souhaitait prendre la parole et Cyril après. Vas-y, Jean-Claude, on t'écoute.
Oui, donc c'est pour répondre à ce que tu as dit, c'est vrai. Moi, personnellement, j'écoute énormément Greg Braden. Et Greg Braden dit qu'il y a environ 6 milliards d'individus dans le monde. Il suffit de 7700 personnes, soit une centaine dans 77 pays englobant la planète, pour faire changer les mentalités et à l'aide de la pensée. Donc ça veut dire que aussi par rapport à la méditation. Bon, il peut y avoir 77 pays avec 100 personnes, avec une centaine de personnes dans chaque pays pour faire, qui font de la méditation et qui peuvent bouger les choses. Il rajoute que le cœur et le cerveau sont des organes électromagnétiques, donc électriques et magnétiques. Le cœur est 100 fois plus puissant que le cerveau électriquement et 5000 fois plus puissant magnétiquement par rapport au cerveau. Le cœur a un rayonnement de plus de 9 mètres de diamètre au maximum en pleine activité et de 2 à 3 mètres en conditions normales. Mais le diamètre du rayonnement magnétique du cœur est supérieur à 9 mètres, sachant que nous n'avons pas inventé la machine capable d'aller au-delà des 9 mètres. Ce rayonnement serait donc beaucoup plus long que ça, et pour moi, ça va dans l'infini. Hein. Donc, c'était pour répondre à la puissance du cœur.
Ouais, c'est super, merci beaucoup. Et ça me fait penser à un livre qui s'appelle « La légende dorée », qui est un livre en fait qui parle des saints, les saints à travers les âges. Alors c'est quand on s'intéresse à la vie des saints, en fait, on découvre qu'ils sont tous très mal finis, malheureusement. Bon, ça, en même temps, c'est normal, on est dans une matrice. Ça donne une explication directe. Et en fait, justement, il y a des témoignages qui parlent de, je dirais, du rayonnement lumineux d'un saint qui peut même aller jusqu'à plusieurs kilomètres. C'est écrit dans la légende dorée. Alors après, voilà, ce sont des témoignages qui je ne saurais pas les dater, il faudrait que je retrouve le passage exact, mais on parle effectivement de plusieurs mètres par rapport au rayonnement du cœur, mais en fait, plus on va dans les corps subtils, donc on parlait des corps bouddhiques tout à l'heure, corps atmiques, corps monadiques, etc., en fait, plus ce rayonnement est lointain, donc si on ne parle plus du plan physique, mais bien de ces plans subtils, on peut avoir un rayonnement qui peut aller très, très, très loin, et notamment par rapport au rayonnement du cœur d'une personne qui aura beaucoup travaillé justement sur elle-même, comme un saint, typiquement, qui aura beaucoup travaillé sur la puissance du cœur. Alors, il y avait une autre personne qui souhaitait prendre la parole. Alors, il y a Julien aussi, j'aimerais bien que tu prennes la parole, ce serait intéressant. Julien, en fait, il anime aussi une émission régulière sur ces thématiques-là. Mais je vois qu'il est assez régulièrement déconnecté. Donc, si tu veux activer ton micro, Julien, tu peux. Par contre, on ne t'entend pas là. Je vois que ton micro est activé, mais on ne t'entend pas. Il y avait une autre personne qui souhaitait prendre la parole, mais je l'ai perdue, je suis désolé.
C'était Cyril. C'est Marie-Claire, c'est moi.
Ah. Vas-y.
Je peux parler ?
Oui, vas-y, on t'entend bien.
Ah, ok, super. C'était principalement une question que j'avais envie de vous poser parce que ça fait une vingtaine d'années que je médite. Je suis passée par toutes sortes de méditations et depuis un an, j'ai décidé de donner mon temps par rapport aux événements extérieurs et de donner mon temps pour ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas méditer, etc. Donc je prie pour l'évolution de l'humanité, plus celle que vous proposez qui me plaise bien, d'ailleurs. Et du coup, ce dont je me suis aperçue, et c'est ça ma question, quand on arrive à être bien calme, bien centré, bien en soi, est-ce que ce n'est pas passer de la dualité à l'unité? Et quand on est dans cette unité, ça rejoint beaucoup de choses que vous avez dit sur le cœur. Et ça passe par là pour être, à mon avis, créatif et créer le nouveau monde. Je voulais savoir ce que vous en pensez.
Alors, moi, je vais faire un petit commentaire et puis après, je laisserai parler les autres parce que je parle beaucoup. Je me souviens plus quel est le mot exact en hébreu, mais pour désigner le mal, en fait, c'est un mot qui parle de séparation. Le mal, c'est la séparation. En fait, tout ce qui sépare, tout ce qui divise, c'est l'ombre, quelque part. Donc déjà, étymologiquement, et dans la Kabbale, mais dans la Kabbale juive, hein, avec un K et deux B, hein, pas la même Kabbale que ce dont on parle habituellement, On a cette connaissance du fait que le mal divise. Donc, le fait de recréer cette connexion par le cœur, comme on en parlait tout à l'heure, Neige parlait justement de cette reconnexion à son père, c'est ça en fait, c'est qu'on est bien là, on est dans recréer l'unité, recréer le lien, recréer ces liens qui ont été, euh, qui ont été coupées et malmenées justement par notre vie dans cette prison terrestre. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous invite à réagir tous autant que vous êtes. Et je regarde s'il n'y a pas des personnes qui lèvent la main. Mais en tout cas, voilà, moi, le commentaire que je pouvais faire. Je ne sais pas, Gwen, qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, par rapport à ça et ton expérience de la chambre à tachyon ?
Bah oui, je pense qu'effectivement, bah ouais, moi, je le vois comme ça aussi, cet espace, en fait, de bulle intérieure dans laquelle on se met avec la méditation. Ça nous permet, en fait, voilà, de réussir à se réunir, en fait, avec nous-mêmes, c'est-à-dire notre connexion avec notre soi supérieur et tout ça, et qu'on arrive à un certain degré, en tout cas, à réussir à sortir de cette dualité dans cet état-là. Et c'est heureusement qu'on l'a. Et c'est grâce à ça qu'on peut avancer et que de belles choses se passent. Et que oui, pour le portail du cœur, ouais, enfin ça, on en reviendra toujours. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment la chose qu'on peut le plus développer. En tout cas, je dirais que c'est le portail du cœur s'ouvre au fur et à mesure qu'on arrive à se rencontrer avec soi-même, en fait, tout simplement, quoi.
Et alors, quand on fait le travail justement sur les implants, donc là, pour l'instant, j'ai mis en suspens les séances en direct, mais chacun peut le faire encore avec toutes les séances enregistrées qu'il y a depuis le début de l'année. En fait, on découvre qu'il y a deux lieux d'implantation majeurs pour les implants primaires, en fait. Donc, il y a les implants qui sont au-dessus des sourcils. Il y en a deux, en fait, au-dessus de chaque sourcil, qui sont là justement pour nous séparer de la source. Donc, voilà, on est dans la séparation, encore une fois. Et travailler sur la dissolution de ces implants va permettre justement de retrouver notre unité avec notre partie divine et avec la source. Donc, on est bien là. Et il y a un autre implant primaire. Donc, toutes les personnes incarnées à la surface de cette planète ont dû accepter ces implants pour pouvoir, ont dû accepter de gré ou de force. Donc, il y a un autre implant qui est situé au-dessus du nombril, un petit peu en dessous du plexus solaire. On appelle aussi l'implant horizontal, qui lui, justement, va couper les énergies du cœur de la sexualité notamment. Et donc voilà, on est encore dans une logique de séparation, de couper, séparer. C'est vraiment le fonctionnement du mal et c'est sa façon de faire justement pour pouvoir faire perdurer son monde. Il doit couper ses liens parce qu'il sait que ses liens justement sont générateurs de lumière. La reconnexion avec une famille d'âmes, générateur de lumière, la reconnexion avec une personne aimée, générateur de lumière, et tout ça, la matrice, elle n'aime pas. Elle essaye d'éteindre ses lumières partout, là où elle le peut. Et c'est pour ça qu'elle a mis notamment en place ces mécanismes d'implant. Donc, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait. Quand on parle de retrouver l'unité, là aussi, c'est un concept qui est un peu galvaudé par la communauté un peu New Age, parce que voilà, c'est devenu une espèce de mantra, l'unité, soyons un. Faut savoir de quoi on parle. Mais ça cache une vraie réalité occulte, oui. De reconnexion à tout ça, quoi.
Moi, ça m'arrive de méditer toute seule et ça m'arrive de méditer dans des groupes. Et j'aime bien quand je suis en groupe, je connais le groupe, pas forcément les gens, je les ai pas forcément rencontrés. J'aime bien me connecter au groupe et je sens l'énergie de chaque personne et je sens quand le temps est passé, que la méditation est terminée, quand les gens s'en vont, je le perçois. Et je peux le percevoir que par le cœur, ça. Les mouvements.
Oui, mais c'est ça, le cœur, c'est notre perception, en fait, c'est clair. Quoi. On n'a pas que les yeux pour voir, c'est le cœur. Hein. Et puis même quand on rencontre quelqu'un avec qui on va sentir une certaine vibration, on sent tout de suite notre cœur qui s'accélère, qui bat. Enfin voilà, il est vraiment vivant et quand on comprend sa présence et en tout cas qu'on l'observe, c'est un outil qui devient ouais très intéressant parce que c'est une lecture vraie en fait. On peut pas nous cacher ou nous mentir quand on regarde avec son cœur, hein, c'est clair.
Donc voilà, merci. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait intervenir sur cette thème ? Alors, il y a Isa. Très bien, c'est une nouvelle. On ne l'a jamais entendue, je crois, Isa. Vous pouvez activer votre micro, allez-y.
Oui, bonsoir. Moi, je suis atypique parce que je suis plutôt une débutante de méditation, puisque ça fait même pas un an que j'en fais.
Donc, en fait, c'est pour plus apprendre sur moi-même, parce que je pars du principe que si on se connaît mieux soi-même, on peut après peut-être aider les autres. Donc, je ne sais pas si je me trompe, mais bon, c'est ma vision des choses.
Tout à fait exact.
J'ai fait un stage de Reiki parce qu'en fait, moi, je suis très cérébrale. Donc, j'ai le cerveau qui fonctionne tout le temps. C'est épouvantable. Et donc, la petite voix qui non-stop. Et ça m'a aidée parce que, justement, j'y allais pour ça. Et il a expliqué quelque chose qui est vrai, c'est l'ego, c'est une grande vague. Et en fait, il faut la laisser, donc laisser la voix parler, l'écouter, mais sans l'écouter, prendre du recul. Et en fait, ça devient une mer d'huile. Et c'est exactement, moi, ça m'a fait tilt. Je ne sais pas si ça peut faire tilt à d'autres personnes, mais... j'ai réussi en partie à régler mon problème d'ego pendant la méditation parce que donc maintenant j'arrive à mieux maîtriser. Et alors, moi par contre, quand je fais de la méditation, j'ai beaucoup de chaleur. Je ne sais pas si ça le fait à d'autres. Très forte chaleur et même des picotements dans tout le corps. Est-ce normal? Je ne sais pas.
En fait, il y a plein de sensations qui sont liées à la méditation. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, des blocages qu'on a tous, en fait, à différents niveaux. En
fonction, ça nettoie.
En fonction de notre histoire personnelle. Mais déjà, la méditation implique la relaxation. C'est vrai, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé ce soir. On est parti tout de suite dans les tours. Mais méditation veut dire avant tout relaxation. Et qui dit relaxation, veut dire justement que l'énergie va circuler de façon plus fluide. Et à partir du moment où l'énergie, et notamment l'énergie éthérique, va circuler de façon plus fluide dans le corps, ça peut, chez beaucoup de gens, c'est ressenti comme un mécanisme de chaleur. Moi, je me souviens à une époque où je m'étais intéressé au Qigong. Donc, c'est un travail énergétique chinois. En fait, vous avez justement une, comment dire, selon les méridiens énergétique, vous avez une bande de chaleur et moi j'observais une bande de sueur qui suivait très exactement le méridien énergétique justement dans cette pratique. Donc oui, bien sûr que ça peut générer ça. Et les picotements, c'est pareil. Les picotements, c'est justement, il y a des zones du corps qui sont plus ou moins bien alimentées par l'énergie, notamment le corps éthérique. Et le fait d'entrer dans cette relaxation et de favoriser cette circulation de l'énergie, les picotements, c'est un petit peu comme, vous savez, quand votre main n'a pas été alimentée par le sang, vous avez de drôles de sensations, des fourmis dans les mains. Et puis quand le sang revient, ça fait des picotements. C'est pareil, c'est ça, c'est le retour de l'énergie dans des endroits du corps qui ont pu être un petit peu bloqués pour une raison X ou Y.
Et pour le cœur, alors... moi, ça m'arrive, mais alors pas forcément lors de la méditation, mais notamment quand je suis dans la nature, parce que j'adore la nature, et de regarder, je sais pas, un arbre, une plante, et de sentir vraiment quelque chose de très fort, qui est indescriptible, et j'ai les larmes qui coulent, et je me sens bien, et je ne sais pas, c'est une joie, mais immense, comme une joie immense, mais qui sort de là, quoi, en fait. C'est un...
Alors ça peut nous amener encore à un autre sujet qui est la thérapie par le contact avec la nature, d'ailleurs que ce soit les végétaux ou les animaux. Je crois qu'on parle même de sylviathérapie aujourd'hui, je crois, pour le contact avec les arbres. Mais tout ça participe aussi de notre reconnexion. Alors vous avez parlé du Reiki. En fait, bon, on va pas forcément développer le sujet ce soir, mais en fait le Reiki, c'est pareil, c'est un sujet qui a participé à l'éveil finalement de beaucoup de gens. Mais il faut savoir que le Reiki n'est pas neutre. Le Reiki n'est pas au-delà de la dualité. Et justement, j'hésite encore de publier un article sur le site Révolution Vibratoire sur le sujet parce que je sais que je vais perdre des lecteurs si je fais ça, et parce que les gens vont être choqués. Mais le Reiki n'est pas voilà, n'est pas pure lumière et assez parasité. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, quoi qu'il en soit. Malgré tout, c'est un sujet qui a permis de réveiller pas mal de gens, mais qui ne les amènera pas dans leur plus grande efficacité spirituelle.
Tout à fait. Le prof avait bien dit, ce n'est pas spirituel, mais c'est juste pour remettre les énergies et pour faire d'autres choses, justement. Je suis aussi d'accord, mais il l'avait prévenu, ça c'est vrai.
Voilà. Alors, est-ce que je regarde ? Alors, Cyril. Cyril, tu peux activer ton micro. Vas-y, la parole est à toi. Je ne sais pas si tu as appuyé consciemment sur la demande de prise de parole. Je vois que ton micro est actif.
Est-ce que vous m'entendez là ?
Oui, un peu distant, mais on t'entend.
Bon, alors je vais essayer de m'exprimer. Donc, je ne suis pas du genre à prendre trop la parole. Disons que je suis venu à la méditation suite en fait à mon ouverture d'esprit qui ne s'est pas fait du tout à travers les livres et à travers tout un tas de rituels ou d'enseignements ou quoi que ce soit. En fait, je me suis réveillé au monde spirituel par le biais de la matière, je dirais. En vivant une histoire assez compliquée avec une amie d'enfance, je dirais que la souffrance en fait que ça a déclenché chez moi a réveillé en gros tous mes souvenirs. J'avais déjà quelques souvenirs depuis l'enfance, et je pense que c'est par rapport à ma signature énergétique, puisque je peux maintenant dire oui que je suis un des enfants indigo qui a été envoyé sur Gaïa. Donc cette signature énergétique m'a permis de vivre mon éveil et de comprendre la spiritualité parce qu'on a tous à l'intérieur de nous quoi. Cette petite étincelle divine que l'on a tous. Donc, je sais que la période où je me suis éveillé, forcément, comme beaucoup de gens qui s'éveillent, j'ai eu donc tout ce qui est remonté de colère, de souffrance, toutes ces choses. J'ai eu une période de 2-3 ans très agitée où j'ai fait justement, comme j'étais très, très en colère, j'ai fait une série de maladies, mais je comprends maintenant que c'était en fait cette colère que je ne pouvais pas exprimer envers le monde extérieur, je la retournais en fait contre moi. Donc j'ai fait des crises d'épilepsie, j'ai fait une méningite, j'ai fait une encéphalite, et je suis tous sorti en fait de tout ça sans en refusant les traitements, en fait, et en me concentrant uniquement sur la méditation à ce moment-là, et le fait de calmer ces colères, cette colère contre moi pour soigner les symptômes de mes maladies, en quelque sorte. Quoi. Donc aujourd'hui, je suis, on peut dire, en pleine santé. Je fais éventuellement, de temps en temps, une crise d'épilepsie, mais je ne les vois pas vraiment comme une maladie parce qu'elles sont souvent en relation avec ce qui se passe sur la planète. Et c'est plus comme, une déconnexion qui me permet après de revenir avec des codes de lumière qui me permettent d'être encore plus centré dans le cœur.
Est-ce que Cyril, est-ce que tu as écouté notre radio Pléiade sur le primo arrivant dans la matrice ?
Alors pas du tout, non. Pas encore. Non.
Ouais. Non mais justement,
on a tellement d'infos parce qu'en fin de compte, je me rends compte que ces dernières années aussi, j'ai été assez actif en tant que digital, ce qu'on appelle les digital soldiers, c'est-à-dire que comme on est connecté à la matrice je dirais, avec la matrice divine. On peut aussi, en même temps, en se connectant avec les réseaux sociaux et tout, être au contact un peu de tout ce qui se passe sur la planète et interagir avec... interagir suivant ce qu'il y a besoin éventuellement, quoi. Faire des prières pour tel endroit, faire des méditations pour ceci, faire circuler telle information, enfin tout un tas de choses. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de tout regarder, quoi.
Non, mais pourquoi je te parle de ça, c'est parce que bon, justement tu te présentes comme un indigo et je pense que tu aurais du bénéfice à écouter attentivement cette émission qu'on a faite avec un primo arrivant dans la matrice. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient te parler et qui pourraient D'accord. te donner des clés justement par rapport à ce que tu as vécu et peut-être ce que tu vis encore aujourd'hui. Bon, je ne vais pas faire Madame Soleil,
mais il n'y a pas du tout de souci. Hein. Tout est bon à prendre de toute façon. J'ai rencontré des gens qui m'ont quand même beaucoup aidé à l'époque. Oui, mais ça peut être intéressant. Je serais intéressé de voir ça. Voilà, bon, c'est un petit témoignage.
Ouais, non, mais c'est super. En fait, moi, j'ai envie de dire juste...
Ça me permet de me mettre en connexion avec le point zéro. C'est comme ça que je le vois, quoi. Et à partir de là, je peux en quelque sorte consciemment guider ma conscience vers ce que je veux.
Ouais, mais quoi qu'il en soit, la maladie et la souffrance sont des chemins d'éveil. Ce sont des chemins d'éveil parce que justement pour la matrice nous met dans des situations de souffrance, mais ça amène beaucoup de gens à penser que la souffrance peut être même une nécessité pour s'éveiller et ça par contre j'aime pas cette vision des choses. Mais en tout cas, forcément,
je comprends bien. Hein. Je ne le dis pas comme ça, hein, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, mes maladies m'ont permis de comprendre beaucoup de choses aussi à côté. Moi, bon, je me suis rebellé un peu comme ça, mais à ce moment-là. Après, non, il faut vraiment que les gens, s'ils ont un problème, se fassent aider, voient des bonnes personnes. Et comprennent aussi par contre que la maladie vient quand même aussi de quelque chose d'intérieur avant tout.
Le mal a dit.
Voilà, Platon le disait, si on ne soigne pas l'âme, si on soigne pas l'âme, de toute façon, on peut mettre n'importe quel cachet dessus, ça ne servira à rien. Ça, le cachet est là que pour stopper en gros les symptômes, quoi, je dirais.
Ben merci pour ton témoignage, Cyril. Je voulais aussi donner la parole à Julien qui a été déconnecté pendant toute la soirée.
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
Ouais, bonsoir Julien. Julien a plein de choses intéressantes aussi à échanger parce que en fait, il rencontre énormément de thérapeutes ou de praticiens et il anime. Bah vas-y, je te laisse présenter justement, ouais. Tu as un groupe sur Telegram, je te laisse te présenter.
Alors bonsoir à tous, merci Alexandre hein, de me donner la parole. Et c'est une position pas évidente, parce que c'est l'habitude d'animer une émission, donc je vais me positionner comme expérimentateur. Et comme disait Alexandre, en fait j'anime une émission avec des thérapeutes qui viennent exprimer leur parcours, comment ils sont devenus thérapeutes et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Et je vais plutôt me positionner aujourd'hui comme humain qui va venir partager son expérience. Et pour faire très bref et vous remettre dans le contexte, en fait, j'ai eu 38 ans de vie sur Terre en travaillant dans le business, en faisant une multitude de choses dans le digital. Et arrivé à mes 38 ans, j'ai accepté d'utiliser mon canal médiumnique et qui englobe une multitude de choses dont on pourrait parler, mais je veux vraiment faire un focus sur la méditation pour décider en fait d'accompagner, de guider, d'éclairer. J'ai décidé de me mettre au service de l'humain. Pour le reste de ma vie. Donc tous les jours, je reçois des personnes que j'éclaire, que je guide. Je pratique également la méditation, mais je ne le fais pas d'une manière régulière. Je le fais quand je le sens, quand ça vient. Et pour rebondir donc sur la méditation, en fait, pour moi, la méditation, c'est vraiment c'est comme une clé. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment de pouvoir modifier notre état de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain incarné dans un avatar et dans un corps, on fonctionne d'une manière bien spécifique. Et pour accéder, à des plans dimensionnels différents, il est important de pouvoir arriver à modifier notre état de conscience. Et pour modifier cet état de conscience qui peut être justement sollicité par une multitude de manières, hein, que vous avez déjà entendu, que ça passe par la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose, ce sont des pratiques qui permettent justement de modifier notre état de conscience. L'objectif de la méditation, c'est de modifier notre état de conscience. Et j'ai pas pu malheureusement écouter tout le long de l'émission, donc je vais peut-être être redondant ou parler de certaines choses dont vous avez évoqué, mais il y a une chose qui est importante pour ma part quand je médite, et c'est l'une des choses sur lesquelles je me concentre, c'est la respiration en fait. Pour moi, la respiration, c'est la vie, et ce qui permet justement de rentrer dans cet état de conscience quand je commence à méditer, c'est cette respiration, ce souffle de vie, et c'est sur lequel je me concentre comme un rythme, comme une cadence. Et ça me permet justement d'accéder à un état de conscience. Alors, les raisons pour lesquelles je médite, en fait, et Alexandre, tout à l'heure, et beaucoup de monde, par moment, quand j'ai pu me connecter, parlait de ce qui se passait dans le monde, des énergies, de toutes ces choses-là. Et j'ai remarqué qu'il y avait une chose qui était très difficile aujourd'hui, et j'y travaille tous les jours, c'est de comprendre à quel moment, et c'est pour ça que la méditation devient importante, c'est à quel moment notre incarnation rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on a tous un travail à faire sur Terre, bien évidemment, individuel, et on est tous reliés collectivement. Et le plus dur de comprendre, c'est quand on est dans un état heureux, état de bien-être, et que d'un coup, on bascule dans un état qu'on pourrait dire de polarité inversée, c'est-à-dire de négatif, de mal-être ou d'autres choses, et on ne comprend pas toujours pourquoi, dans un état de bien-être, d'un coup, on peut migrer dans un état de mal-être. Et pour moi, il y a deux raisons à ces états. C'est le premier, on a un travail à faire sur nous-mêmes, donc on est face à des problématiques qu'on doit résoudre. Et deuxièmement, effectivement, avec tout ce qui se passe en ce moment, les énergies de la planète entière sont en mouvance. Donc effectivement, étant pour chacun d'entre nous hypersensible, réceptif, clairvoyant, lucide, on capte ces énergies-là et elles peuvent, d'un moment donné à l'autre, en cours de journée, en cours de matinée, à n'importe quel moment, nous faire basculer dans des énergies qui sont à l'opposé dans laquelle on est, c'est-à-dire bien. Donc l'objectif pour moi, la méditation, c'est peu importe que ce soit à travers le travail que j'ai à faire sur Terre ou que ce soit les énergies négatives de la planète qui interviennent, j'accède à la méditation parce que la méditation, c'est le moyen en fait. Et vous le disiez, j'ai écouté le début de l'émission, on parlait de, et c'est Alexandre je crois qui en parlait, qui disait l'objectif c'est de ne pas, on ne peut pas arrêter ses pensées, et puis il avait très juste dans ce qu'il disait, puisque notre système de pensée est un système infini et on n'arrête pas de penser, c'est quasiment impossible en fait. Par contre, en revanche, cet état méditatif, l'accès à cet état méditatif nous permet de mettre en silence nos pensées. Pourquoi ? Parce que dans un grand cercle, on a une multitude de pensées, on a notre mental, notre dualité, comme chacun en parlait tout à l'heure. Et au plus on fait de l'espace sur ce disque dur de stockage, au plus l'espace peut être comblé par différents types d'informations. Donc l'objectif à travers la méditation, c'est vraiment de modifier l'état de conscience dans lequel on est. Au premier abord, c'est se recentrer, s'aligner avec ses propres énergies, celles de la Terre. Donc c'est se sentir bien, respirer, s'écouter et surtout l'objectif de la méditation pour moi c'est vraiment être dans le moment présent, c'est les premières étapes de mes accès méditatifs, donc c'est être dans l'instant présent, et quand on est dans l'instant présent on n'est ni dans le passé et ni dans le futur, donc on n'est pas dans la culpabilité, la projection, le regret ou quoi que ce soit, on est vraiment dans l'instant présent. Et ensuite à travers les méditations j'accède à deux choses, soit je décide de me réaligner avec moi-même parce que je passe par une turbulence, et comme je vous disais tout à l'heure, peu importe si elle concerne mes épreuves de vie sur Terre ou les énergies globales de la planète, l'objectif c'est de me réaligner. Donc soit j'en ai besoin en cours de journée, hop, j'arrête et pendant 5 minutes je vais rentrer dans un état de respiration, un état où je vais prendre du temps avec moi-même, ce qui va me permettre de me remettre dans de bonnes énergies, puisque ce changement d'état de conscience nous fait élever sur un plan vibratoire. Et ensuite, il y a la deuxième facette que j'expérimente sur le plan de la méditation, c'est j'accède à des plans multidimensionnels. Donc, alors, qu'est-ce que j'entends par accéder à des plans multidimensionnels ? C'est soit je me centre et je m'aligne, ou soit je décide de méditer pour permettre à mon âme, à mon esprit, de pouvoir accéder à des dimensions autres que celles de notre Terre, sur des vibrations et des fréquences différentes. Et souvent, on m'a posé la question, mais tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Ben, je vous répondrai que non, pas du tout. C'est-à-dire que quand je souhaite faire une sorte de voyage, je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte de voyage multidimensionnel, à la rencontre d'êtres lumineux, galactiques, en fait, à ce moment-là, il faut être dans un état vraiment bien en soi, puisque aller au-delà de l'alignement, c'est-à-dire vouloir rentrer dans un état de voyage, si on peut le dire de cette manière-là, bah, ça implique d'être bien et d'être aligné avec soi-même, parce que sinon on peut être confronté à des choses occultes et des choses qui sont à polarité plutôt négative. Et moi, l'expérience qui m'est arrivée de vivre, par exemple, si je dois parler d'un voyage que j'ai fait, c'est je me suis mis dans un état méditatif sur le canapé. Et quelques instants après, c'est comme si je sentais mon corps installé paisiblement sur le canapé. C'est comme si je sentais mon âme se décrocher de mon corps, s'élever de la terre, un petit peu comme cette vision qu'on a du globe, où d'un coup, il y a une caméra qui part du dessus et on a l'impression de s'envoler vers l'espace. Et une fois que j'arrive dans cet espace-là, justement, l'espace que nous connaissons, c'est comme si on me faisait accéder à des sortes de tunnels dimensionnels. Donc, je me laisse porter. C'est très déstabilisant, très troublant, puisqu'on est dans un état conscience modifiée. Donc, c'est très dur par des mots humains de pouvoir l'expliquer. C'est quelque chose qui s'expérimente. Et ensuite, j'arrive sur une sorte de plateforme et la dernière fois que j'ai eu l'occasion de faire une sorte de voyage méditatif comme ça, ben justement, j'étais face à un être de lumière qui est venu me voir, qui est venu me parler, me transmettre de l'information. Et une fois que l'expérience était terminée, ben je suis revenu un petit peu comme si on appuyait sur le bouton rembobiner et hop, on repasse par les tunnels, on revient. Et cette fois-ci, j'ai accédé à travers un état méditatif à un échange, à recevoir de l'information. Mais c'est pas moi forcément qui décide d'aller récupérer de l'information. Donc pour terminer cette petite parenthèse et la prise de parole, je voulais dire que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans les événements par lesquels nous traversons, parce qu'on vit de grands événements du changement de notre humanité, de notre civilisation, s'il y a bien une chose qui est importante aujourd'hui en tant qu'humain, si on doit le dire, ou être spirituel incarné dans un corps humain, parce que c'est bien de parler de spiritualité, mais c'est aussi très important d'accepter son humanité, c'est de pouvoir justement, par moment, quand les choses nous submergent, ben, ce que je fais et ce que nous pouvons tous faire, c'est justement accéder à cet état méditatif, et ça ne demande pas grand-chose, ça demande juste le temps de prendre le temps, de trouver un lieu au calme, de se recentrer, et je pense que c'est l'une des clés fondamentales de ce que nous sommes en tant qu'humains et êtres spirituels, d'être capables justement, dans tout tourment de vie, qu'il soit personnel ou collectif, de pouvoir accéder par la méditation justement à un rééquilibrage de nos énergies. Et aujourd'hui, effectivement, hormis ce côté méditatif, je partagerai que en fait, je suis en état méditatif quotidien puisque l'objectif, je trouve, pour ma part, c'est d'être en équilibrage comme si on était en live, en temps réel, c'est-à-dire que tous les jours, 24/24, le matin comme l'après-midi, l'objectif, c'est de rester dans des énergies positives et ça implique d'être en supraconscience de chaque instant qu'on vit. Et c'est vrai que pour les personnes qui peuvent avoir du mal d'être dans cette supraconscience, l'accès à cet changement d'état de conscience par l'état méditatif peut être un moyen de se connecter à notre divinité, à des plans astrales supérieurs. Voilà Alexandre, si j'ai pu amener peut-être un éclairage à tous ceux qui écoutent.
Oui, c'est bien parce que tu fais le lien déjà avec le début de notre émission, parce que nous, on a commencé par la fin et toi, tu termines par le début, donc c'est bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de la respiration et c'était bien que tu parles de la respiration parce qu'on a commencé par des concepts assez perchés là, avec la colonne bouddhique. Et en réalité, quand on doit parler de méditation, on doit commencer par la relaxation, on doit commencer par la respiration. Donc, c'était bien que tu parles de ça. On a un petit peu éludé le sujet alors que Pour les gens qui abordent la méditation, c'est vraiment la porte d'entrée la respiration apaisée, l'observation de sa respiration. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est que tu fais le lien avec notre émission de la semaine dernière, qui était le thème du voyage astral, parce que tu n'as pas véritablement utilisé ce terme-là, mais en réalité, l'expérience que tu nous as décrite, c'est une expérience de voyage astral.
Ben justement, en fait, je n'ai pas voulu utiliser ce terme parce que je me rends compte que de plus en plus, dans mon cheminement spirituel et avec toutes les personnes que je rencontre et que j'accompagne, qu'en fait, notre langage humain est tellement limitant, tellement encadrant par des mots, par des définitions, par des étymologies, que finalement, à mettre un nom sur quelque chose, on a beaucoup plus de difficultés à pouvoir associer une expérience que l'autre a vécue parce qu'il l'a définie en tant que telle. C'est pour ça que le fait de ne pas utiliser voyage astral, je pense que ça peut permettre peut-être à certains qui ont vécu une expérience de pouvoir associer cette même expérience et de pouvoir dire effectivement, j'ai vécu la même expérience, et après éventuellement l'associer au nom de voyage astral ou de rêve lucide, parce qu'il y a tellement de mots pour qualifier ce qu'on vit.
Voilà, mais c'était le thème justement de lundi dernier. Donc moi, j'en profite en fait. Je prends juste le marchepied pour faire la publicité pour ceux qui ne l'ont pas entendu, l'émission de la semaine dernière où on a parlé du voyage astral et du rêve lucide. On a essayé d'ailleurs de faire le distinguo entre les deux. Mais voilà, ok, très bien. Enfin, effectivement, en tout cas, ta façon de le raconter était super intéressante. Et voilà, moi, ça me permet de faire le lien. Donc, ça pourrait être une conclusion. En fait, tu t'es présenté vite fait, mais tu peux juste dire deux mots de ton groupe Telegram. Des fois, justement,
bien
il y a
sûr.
Peut-être des personnes qui seraient intéressées.
Tout à fait. En fait, c'était fin mars. Fin mars, en fait, j'avais envie de partager ma spiritualité, mon expérience de vie ou autre. Et j'ai décidé de lancer un canal sur Telegram qui s'appelle Lightworkers. Et l'objectif, c'est justement, c'est un canal où on vient partager ses expériences spirituelles, ses ressentis. Comment aussi, ce qui était important pour moi, c'est que comme j'ai changé de vie, c'est-à-dire qu'avec les temps qui courent, il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur ancienne profession et qui migrent vers une nouvelle profession, vers une nouvelle vie, puisque la planète vit, on va dire, se dirige vers une nouvelle humanité. Et il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent, qui changent de boulot, qui changent de profession. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 années. Et je trouve que c'était important, justement. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, qui s'éveillent et qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe, ce qu'ils ressentent, ce qui vibre, leur hypersensibilité, leur clairvoyance ou ce qu'ils ressentent. Et je trouvais intéressant de pouvoir créer une sorte de plateforme d'atterrissage, donc ce canal, pour justement venir rassurer chacun qu'aujourd'hui, si on a envie d'arborer la vie qu'on souhaite avoir, si on a envie de comprendre des choses qui sont particulières, qu'on n'arrive pas à comprendre, on peut venir les changer en bienveillant sur ce canal. Et je veux juste rebondir sur ce que tu as dit avant, c'est intéressant, parce que je n'ai pas pu participer malheureusement à l'émission sur le voyage astral. Mais de ce que je pourrais dire très brièvement, en fait, si je devais qualifier le voyage astral et le rêve lucide de mon expérience personnelle, les voyages astrales, je les fais principalement en état méditatif, quand c'est volontaire, quand j'en ai une conscience en pleine. Et à contrario du rêve lucide, où le rêve lucide vraiment, je le vis principalement, c'est comme si j'avais un coup de fatigue énorme, c'est-à-dire qu'on m'emmène dans une fatigue, je suis obligé de m'allonger où je suis. Et quand je m'allonge, je me réveille à l'endroit où je suis, mais j'ai compris avec le temps et avec l'expérimentation, parce que c'est une question d'expérimentation, que c'était un rêve lucide. Donc voilà, le voyage astral, pour moi, je l'associe à de la méditation, et le rêve lucide, je l'associe aux phases paradoxales du sommeil.
D'accord. Écoute, j'avais donné des explications la semaine dernière qui ont soulevé quelques réactions, parce que je ne suis pas sûr que ça apportait vraiment des clarifications. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ta vision des choses. Voilà, mais on pourra justement, ça pourrait être intéressant de refaire une émission, pourquoi pas ensemble d'ailleurs, même sur des sujets de ce type-là. Alors, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est ensemble. Et du coup, je me dis, oh là là, il va falloir stopper l'enregistrement là, parce que ça commence à faire long. Donc, je donne la possibilité à chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, de dire un dernier mot rapide avant que je coupe l'enregistrement et qu'on bascule en mode after. Parce que comme vous le savez, alors je ne sais pas si Sandrine, tu pourras d'ailleurs assurer ça, parce qu'on n'a pas Cindy ce soir. pour les personnes qui veulent continuer à discuter sur ce sujet ou sur d'autres, ou peut-être le sujet de la vaccination, parce que ça nous préoccupe tous après les annonces qui ont été faites. Mais en tout cas, vous avez des outils, vous voyez. Vous pouvez faire des visualisations en méditation, des visualisations pour transformer le monde, pour faire en sorte justement que cette folie autour de la vaccination cesse rapidement, et vous avez réellement le pouvoir de le faire avec des outils tels que la méditation. Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait avoir un dernier mot avant que je ne ferme l'antenne théorique, en tout cas que je stoppe l'enregistrement ?
Je voulais dire merci pour cette magnifique soirée. Je voulais juste préciser que quand j'avais donné l'exemple des enfants, que j'avais parlé justement de leur difficulté à respirer, qu'on avait parlé de la respiration. Voilà.
Exact. Excuse-moi, effectivement, tu en avais parlé.
Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci en tout cas. Bonne nuit.
Ouais, bonne nuit, Neige.
Bonne merci nuit, beaucoup. Ouais, merci.
Ok, voilà. Bon, bah, et puis alors, on vous invite à notre prochain Radio Pléiade, donc lundi prochain. On s'arrêtera peut-être plutôt les trois premières semaines d'août, je pense, enfin à voir, à confirmer. Mais en tout cas, lundi prochain, ça continue. Et lundi prochain, on aura un invité qui est Jonathan du site Exoportail. Et on va parler aussi d'un sujet qui est un peu controversé dans la communauté des Light Warriors ou Light Workers, justement, qui est le sujet du contacté Cobra. On a beaucoup d'informations sur le sujet et toutes les questions que vous pouvez vous poser à son sujet, vous aurez l'occasion de les poser. Voilà, bon, pour une fois, on a défini le sujet un petit peu à l'avance. C'est assez rare, mais là, comme j'ai pris rendez-vous avec Jonathan, je peux vous dire que ce sera le sujet de notre prochain Radio Pléiade. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour cette richesse que vous avez apportée chacun ce soir sur ce sujet de la méditation. Et puis, donc ce sera en replay sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa, comme d'habitude. Et puis, je vais mettre l'enregistrement en replay direct sur les groupes pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et voilà, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et merci beaucoup, merci encore. Et je stoppe de ce pas l'enregistrement. Et restez avec nous pour ceux qui veulent faire l'after. Allez, à bientôt, bonne soirée.
Bonne soirée Hervé, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée à tous, merci beaucoup.
Oui, bonne soirée à tous.